avec cette blague qui est donc devenue un running gag. Et bien sûr, oui, c'est ici l'actu de la droite. Exactement. C'est bien là. Surtout, c'est pas tellement l'actu de la droite que le point de vue de droite sur la vie politique française. Hein. Enfin, une chaîne de droite sur Twitch. Enfin, quand je dis enfin, non. Enfin, une chaîne de droite qui n'est pas une chaîne de gaming, parce que sinon, ça, des chaînes de droite, il y en a beaucoup, mais bon, des chaînes de droite qui ne sont pas du gaming, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et encore, c'est pas la droite, le gaming, c'est l'ultra-droite libérale, non ou l'ultra-libéralisme, le néolibéralisme. Ouais, il y en a beaucoup, hein, des chaînes de gaming qui, en fait, sont des chaînes de droite, quoi. Il faudrait qu'elles le disent plus clairement, quoi. L'émission d'hier était pas mal non plus dans le genre, Julie. Laquelle League of Legends ou Question Sénateur ou le pré-show de Jean. Hein, faut préciser parce que maintenant on a plein d'émissions et Jean est quasiment là tous les jours. Donc en fait, si tu dis l'émission d'hier, il y en avait deux. Alors laquelle l'émission d'hier soir était pas mal non plus dans le genre. Parce que on a dit Question Sénateur. Ah bah c'était. Ah, merci pour le coming. Ah voilà, donc comme ça, si vous posez la question, voilà, Acrogauchis, Usul à 20h, tout à l'heure. Pendant ce temps-là, je perds tous mes retours. Voilà. LOL, c'est full de droite, Willy Métalleux. Quoi, maintenant, là? Parce que. Enfin, Roger, hein, c'est ça? C'est Roger Chassaigne? Non, merde. C'est André Chassaigne. André, il est pas de droite, André. Hein. André, c'est un petit pourreau, il est apolitique. Lui, tout ce qu'il veut, c'est se cacher dans les herbes hautes. Et assister à des gangs de folie, quoi. C'est tout. Donc, effectivement, question sénateur, eh bien, oui, c'était une sénatrice LR, si ma mémoire est bonne. Et oui, donc, elle avait des réponses de droite, hein, ça, c'est sûr. Hein. Alors, non, oui, mais je ne sais pas si tout Twitch est de droite, quand même, il ne faut pas exagérer. Bon, déjà, nous, on n'est pas. Nous, on ne prend pas position, hein. Acropolis. N'est pas de gauche, n'est pas de droite. Nous sommes sans orientation affirmée. Ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas d'orientation, mais en tout cas, ce n'est pas le but, quoi. On est neutre. Ah, on n'est pas neutre, c'est difficile d'être neutre. Bah non, hein. Vous l'avez vu la semaine dernière. Hein. Encore merci d'ailleurs. Alors, t'en avais pas mis un. On voulait pas mettre un goal.
Ah oui, mais oui, mais du coup.
Ah bah non, mais du coup, il n'était pas là. Mais on peut en mettre un à 20 euros pour un bouquin et après, ils choisissent, tu vois.
Faire ça. Même lancer un vote dans le chat pour savoir.
Mais faut qu'il y ait des thunes quand même. Alors c'est bien gentil de me proposer des bouquins, mais s'il n'y a pas les thunes, moi je veux pas, quoi.
Allez, je te fais ça.
Exactement, Meliodas, neutre en politique, on a toujours un avis, exactement, ouais. Mettre des goals, c'est pas moi la spécialité. Ça, c'est vilain parce que. Enfin bon, ça ne regarde pas le public. Hein. Alors en parlant de ça, la vignette de l'émission la semaine dernière, c'est une idée de qui? Quelle vignette? Faut être plus précise, l'Auvergnat. Je suis désolé, mais je ne sais pas de quoi tu parles. La vignette de la semaine dernière, c'est qui? Quelle émission? Quelle vignette? De la mienne? On avait une vignette? Non, hein? La mienne? Sur YouTube, tu veux dire? Faut être précise. Je ne sais pas après, moi. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Le titre? Ah, le titre! Quel titre?
Le titre, c'était notre ami. Attends, c'est quoi déjà son nom?
Bah, avec Maxime Nicole.
Voilà, futur prix Goncourt avec un point d'interrogation.
Ah, c'est Thibaut, ça, je pense.
Moi, j'aime bien la blague.
C'est Thibaut qui met en ligne. Alors après, je pense que c'est lui qui a du titre. Et ouais. Bon, après, je pense pas. C'est pas un roman, donc je suis pas sûr qu'il puisse concourir au Goncourt. Bon, c'est une remarque technique. Hein, on s'en fiche un peu, mais oui, c'était gentiment moqueur. Thibaut, c'est son genre, ça. Il est moqueur, mais jamais méchant. Je sais pas qui il aime, Thibaut, en fait, parce qu'il aime pas Maxime Nicole, il aime pas Greta Thunberg. Et il aime Macron, c'est ça, t'aimes Macron, en fait.
Je dois être de droite, je pense. Hein.
Et puis, merde, je vote à droite. Peut-il concourir au concours? Non, Ecladus, non, ça, c'est pas possible. Alors, tu as mis le bon titre, hein, Thibaut, là, sur le live, parce que j'ai pas le titre, mais t'as mis ce que... Donc, il y a plus de secret, il y aura un point Val, c'est ça? Mais avant ça, alors la semaine dernière, j'avais parlé d'un. Pour celles et ceux qui étaient là la semaine dernière, j'avais évoqué, quand j'avais parlé des gilets jaunes, j'étais arrivé à parler des gens seuls et de la solitude en France, et les gens qui se sentent seuls et qui parlent à personne. Et bon, je me disais, mais merde, Adrien, c'est quoi ce truc? Il faut quand même retrouver. Et alors, j'ai cherché et je suis tombé, en fait, c'est un baromètre régulier qui est fait par BVA et l'Institut Astrée. Enfin, l'Institut, l'association Astrée, pardon. Tu peux basculer, hein, si tu... Thibaut. Vous allez voir, là, attendez. C'est beau. C'est beau. Et je suis en minuscule, par contre, mais c'est bien, au moins, ça fait illusion. Et du coup, on voit bien le poro, en fait. Les gens sages pour Valls. Ah oui, c'est vrai, ouais, exactement. Les gens seuls de la semaine dernière, ouais. Est-ce que c'était les... Voilà, c'est les gens ou les jeans, ou il y a les métalleux. Alors là, donc, c'est une... en fait, c'est Astrée qui paye BVA, l'Institut de sondage BVA, pour faire une étude sur les Français et la solitude. Oula. Bon, là, je vous passe la méthodo. Hein, c'est un millier de personnes âgées de 18 ans et plus, la structure de l'échantillon, voilà, bon, voilà. Et qui disent, en fait, quels sont les nombres de personnes qui ont eu l'expérience de la solitude. Hein. Et, d'ailleurs, ça fait que 58% des Français qui connaissent des personnes souffrant de solitude, hein, mais ça veut pas dire que 58% des Français souffrent de la solitude, tandis que Sylvain a une expérience très très personnelle de la solitude. Merci de faire vivre le chat, Sylvain, ça fait toujours plaisir. Hein. Le sentiment de solitude donc, touche près de 8 Français sur 10 et 4 sur 10 de manière régulière, et surtout les plus jeunes. Alors, le lien vers l'étude, j'ai pas le chat sous la main, mais on vous l'enverra, hein, vous faites signe, je sais pas, c'est sur le...
Non, ouais, je le poste,
attends, de toute façon, regarde, attends, hop, vous allez sur le site astrée.asso.fr et vous pouvez retrouver l'étude, en fait. Je sais pas où elle est exactement, mais... Ouais, je sais plus où elle est. Je l'avais trouvé sur BVA, en fait, mais vous avez l'association Astrée, en fait, qui est l'association qui lutte contre la solitude. Et effectivement, qui ont leur siège, d'ailleurs, à deux pas de chez moi, rue du chef de la ville, dans le 13e. Un des meilleurs noms de rue, hein, au passage, hein, rue du chef de la ville. Hein, je sais pas si vous imaginez le nom, quoi, et c'était quelqu'un. Hein. Et c'est une association qui donc met en place des dispositifs de lutte contre la solitude. Pendant que Ecladus vous a mis dans le chat le lien vers l'étude directement, et qui permet de se faire une idée sur le nombre de personnes, en fait, victimes, enfin, ou qui souffrent de la solitude. Voilà, j'en avais parlé parce que j'avais dit des gens, en fait, ont eu du plaisir à se retrouver sur les ronds-points et finalement se sont mis à parler de choses qui comptent à d'autres personnes, là où finalement il n'y a peut-être une vie finalement que de fait que de d'échanges. J'allais dire informel, mais non, d'échanges techniques, en fait, avec leur entourage. Et effectivement, on passera à Valls après, et c'est vrai que c'est peut-être assez cohérent avec la solitude. Hein. Les Français estiment pouvoir compter sur leurs amis en cas de besoin, mais se montrent plus réservés en termes de relations de confiance. Alors ça, oui, ça, bon, ça, les Français, apparemment, ils font pas trop confiance à leur entourage, parmi les pays européens, où on a le moins confiance avec les... aux autres personnes, ce qui est quand même assez, enfin, je sais pas si c'est surprenant, mais moi ça assez frappant. Les gens ne font pas confiance, en fait. Ça rejoint ce que dit Ruffin sur les métiers du lien un peu, non? Je sais pas, Aline, qu'est-ce qu'il dit Ruffin sur les métiers du lien? Je t'avoue que je connais pas tout Ruffin, donc explique un peu, parce que j'ai peut-être pas vu ce que Ruffin aurait dit. Excuse-moi, mais c'est possible, hein. Je pense que Ruffin, il connaît tout ça. Hein. Ruffin, il était compliqué. Tu fais référence à quoi, Dr Raven, au petit montage de notre révolutionnaire en pantoufle, ou à autre chose? Parce que bon, sinon ça va. Je pense que c'est pas le petit extrait hors contexte qui fait peur à Ruffin. Je pense. Il en a vu d'autres. Un peu de bouteille quand même. Oui, Metal, on tire. Balle réelle sur Valls dans le chat. Du calme, oui, peut-être après. Oui, peut-être après. Les Français expriment à la fois un manque de compagnie et le souhait d'avoir l'entourage proche. Voilà. Ça, c'est les Français qui se sentent seuls. Voilà, je ne vais pas vous donner toute l'étude, mais c'est donc un sentiment partagé. C'est jugé important, et évidemment, la petite question qui doit faire plaisir à Astrée. les associations jugées comme un acteur de référence pour lutter contre la solitude. Je sais pas, elle n'allait pas se manière vite fait, mais si vous vous sentez seul, voilà, il y a Astré qui peut vous aider et sûrement d'autres associations. Et parfois, juste intégrer une association, ça peut faire du bien. Hein.
Faire du tu bien. Peux arrêter de jouer à ce que tu as dans les mains.
Ah oui, ouais, pardon.
Fait énormément de bruit.
Oui, ça fait un bruit horrible, j'imagine. Donc, c'était juste pour en parler et parce que bah, j'avais évoqué le truc la semaine dernière et ça m'ennuyait de pas aller plus loin. Et alors, parce que c'est la création d'un ministère de la solitude. D'ailleurs, mais qui pourrait être ministre de la solitude en France, tiens? Il faudrait mettre qui
Comment il s'appelait le mec de En Marche qui s'est
Asselineau,
barré?
Non,
non. Le mec de chez En Marche qui s'est barré là. Le jeune.
Il y a beaucoup qui sont barrés de chez En Marche. Qui quoi?
Qui est un peu perché. Non.
Ouais, alors là, il a beaucoup déperché aussi.
Comment il s'appelle?
Benalla? Non.
Non,
alors que
toujours,
tu réfléchis. Benoît Hamon. Ah oui, c'est pas con ça.
Benoît Hamon, il rentrerait bien dedans.
En tout cas, il a une expérience de la solitude, hein, ça c'est sûr. Hein. Enfin, il l'a toujours d'ailleurs. Hein, le nombre de photos qu'il a prises avec son chat sur son Instagram. Ah, Joachim Sonneforget.
Oui,
tu
voilà,
penses ouais,
voilà.
Celui, le député de la Suisse.
Joachim.
Député des Français de la Suisse. Et du Liechtenstein, pardon, n'oublions pas les 15 Français de Vaduz hein, qui ont pu voter pour Joachim Sonneforget.
C'est important.
Moi, je dis 15, mais ça se trouve, enfin, c'est une blague, mais ça se trouve, c'est pas loin parce que je suis plus à 25 000 habitants ou les 21 000 habitants au Liechtenstein. Donc, de toute façon, s'il y a des ressortissants français, il y en a pas beaucoup. Non, mais oui, c'est quoi ce pays, quoi. Enfin, bref. Excusez-moi, je fais une pause boisson. Je laisse le soin à Thibaut de meubler un petit peu.
Est-ce qu'on peut dire que Vauquier aussi traverse une petite
C'est vrai, dans une logique d'ouverture politique, Vauquier pourrait être mis de la solitude. Mais honnêtement,
Copé,
je pense...
Copé serait encore mieux, je pense.
Ah, Copé, ouais. Ouais, Copé.
Finalement.
François Drugy, pour un retour au gouvernement. Mmh. C'est la solitude. Bon, je sais pas. Bonjour, il y a vraiment des gens qui valident encore cette photo avec les avant-bras coupés qui signent les uns les autres. Est-ce qu'on peut trouver la page d'accueil d'Astré? Alors, attends, quoi? Ah, tu parles de celle-là, là, avec ah oui, c'est peut-être pas forcément très heureux comme cadrage. Ah, tout en bas. Ah ça, ah oui, mon Dieu, ah c'est horrible. Ah oui, elle est affreuse. Ah putain, j'ai pas fait gaffe. Waouh. Ah ouais, non. Ah oui, non, c'est dur. On dirait. Ah ouais, non, c'est affreux comme. C'est affreux comme image en fait, parce que ah oui non mais normalement on n'est pas censé voir les bouts des avant-bras parce que là ah ouais non là effectivement bah, une fois qu'on peut plus voir que ça après ah bah c'est je sais pas il y a apparemment un article sur les corps qui ont été faits qu'on te donne la science qui circule là ah, ben bah, voilà c'est ça ils ont pris ces corps là pour faire la photo hein. Ils ont coupé les avant-bras ils les ont posés ils ont pris la photo. Ouais non joli bien vu Joris bien vu effectivement ça c'est une photo qui fait un peu peur quoi bon vous voyez être seul hein, c'est pleurer dans une salle de réunion avec quelqu'un qui vient quand même vous voir ou c'est pleurer par terre ça c'est les images de stock hein. On sent aussi que c'est plutôt des écoles américaines là bon ok mais ça c'est pas grave et Astré bon bah c'est 3000 personnes formées Ça fait 30 ans qu'ils sont là, 500 bénévoles et des antennes dans 17 villes de France, hein, dont bien sûr à Paris, Strasbourg, Nancy, même à Angers, quoi. C'est dire s'ils sont partout, parce que vous avez une antenne à Angers quand même. Bref, mais effectivement, ce dessin, enfin cette image est assez terrible. Hein, j'avoue, une fois qu'on a vu ça, c'est... en plus on voit le copier-coller là, non ? Enfin, je sais pas. Non, c'est pas les mêmes mains en plus. Ouais, bon. Alors, Vernet, cette association, bah, écoute, tu iras voir, mais ils accompagnent des gens en souffrance, ils font en sorte que les gens ne se sentent pas tout seuls et trouvent à qui parler. Voilà, ça permet de s'épancher, de vider son sac et de pouvoir partager son éventuelle souffrance. Bien, alors écoutez. On bascule en plein pot là. Voilà, merci Cladus pour le lien de l'étude. Pendant ce temps-là, rapidement, hein, bon, on a suivi Valls pendant un an déjà la saison précédente, hein, jusqu'à les élections européennes, les élections municipales. à Barcelone. Et je vous disais que jamais plus on en parlerait vraiment, mais c'était compté sans les ambitions sans limite de Manu, qui même en Espagne veut continuer à faire de la politique, hein, et être conseiller municipal d'opposition de Barcelone. Ça ne lui suffit pas, normal en même temps. Et en fait, j'ai cru à une blague au début. Enfin, je me suis dit, mais c'est pas vrai quand même. Bah, si. Il veut être. Il réfléchit à se présenter à la présidence de la Généralité de Catalogne, la Generalitat ou la Generalidad de Catalogne, dont il y aurait peut-être une élection l'année prochaine. Parce que là maintenant, il est. Il est un peu seul. Hein, voilà, c'est pour ça que, effectivement, ministère de solitude, ça pourrait lui aller, hein, pour un retour en France éventuellement. Donc, ils sont plus que deux dans son groupe au conseil municipal de Barcelone. Je vous rappelle le contexte, hein, il était tête de liste sans étiquette politique, mais soutenu par le parti Ciudadanos, l'espèce de En Marche d'Espagne, avec qui il est en froid parce qu'il a soutenu Ada Colau, la maire sortante, pour que ne devienne pas maire de Barcelone, un indépendantiste, puisqu'il avait axé sa campagne aussi contre l'indépendance de la Catalogne. Donc, il a préféré soutenir la gauche, voire l'extrême gauche, et éviter ainsi que devienne maire, en fait, un indépendantiste catalan, en fait. Et ça a fait que ça a fini de le mettre en froid avec Ciudadanos. En plus de ça, comme il avait critiqué les alliances, mais disons la tolérance de Ciudadanos au parti Vox, hein, puisqu'ils avaient accepté leur voix pour avoir des majorités dans d'autres régions espagnoles. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et Ciudadanos l'a viré. Et donc, en fait, le groupe s'est séparé. Alors, je ne sais plus si c'était 4 ou 5, donc bon, ça ne fait pas une grosse séparation. Et en fait, il n'y a qu'une seule personne qui l'a suivi, une certaine Eva Parera. Attends, vas-y, bascule là, s'il te plaît. Donc là, vous voyez, si ça, ce n'est pas des photos de personnes en campagne déjà un peu. Alors là, vous voyez, c'est Barcelone, hein. Alors, visiblement, quand même, il y a un petit effort à faire sur les espaces verts. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les pauvres jardinières, là.
Ah, c'est ça qu'on appelle la solitude. Parce qu'on est un peu seul, quand même, là.
Là, ils sont deux, quand même. Ils sont deux, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est. C'est les violences après les manifestations, d'accord. Donc là, bon, il serre des mains. Là, les gens sont traumatisés, les jardinières ont été cassées. Visiblement, il y a eu des trucs un peu plus sérieux. Il le dit, hein, pour une ville plus en sécurité. Vous ne voyez peut-être pas, là, c'est en dessous, là. Voilà, une ville plus en sécurité. Et c'est tout, hein. Donc juste pour vous montrer là, alors le compte, ils ont que 5000 abonnés, les pauvres, donc c'est Barcelona Pel Canvi et c'est Eva Parera, donc qui est l'autre, une ancienne avocate du sport, hein, ou une avocate du sport toujours, qui est sa colistière et qui est toujours donc dans son même groupe que lui. Ça lui fait déjà au moins un adhérent à son futur mouvement parce que donc Manu, ce qu'il veut en fait, c'est fonder, alors il appelle ça une plateforme constitutionnaliste, c'est-à-dire donc de respect de la constitution espagnole, hein, c'est-à-dire toujours donc anti-indépendantiste, anti-Catalogne indépendante, pour garder l'union espagnole. Donc la monarchie, hein, forcément, c'est ce qui fait enrager les républicains qui voudraient une république catalane. Et lui, pour ça, il propose d'être le représentant d'une grosse plateforme transpartisane des unionistes, constitutionnalistes catalans. Et ensuite, donc, en espérant que la campagne se soit clivée sur ce sujet-là, et donc peut-être gagner en pariant sur un affaiblissement du Parti Socialiste Espagnol et du Parti Populaire Espagnol en Catalogne, puisque ces deux partis se font bouffer en fait en Catalogne. Salut Théo, salut. Oh, alors, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Manu. Hein. Moi, vous savez, il me manquait un peu quand même. Il me manque, hein. J'ai vu qu'il était passé chez Laurent Delahousse, mais je ne regarde pas France 2, alors, enfin, je ne regarde pas trop la télé. J'avais raté ça, l'interview qui avait l'air. Bien costaud, hein. Laurent, il l'a pas épargné. Il lui a posé des questions vachement difficiles et il l'a mis sur le grill en difficulté. Ça, c'est la. De toute façon, c'est la spécialité de Laurent Delahousse, les questions très difficiles. Non, je déconne, hein. C'est l'interview de Laurent Delahousse. En général, ça va, c'est plutôt simple. Salut à toi, Passécien. Salut, salut. Clément Victorieux, j'en ai vraiment parlé. Oui, c'est grâce à lui que j'ai vu ça, effectivement, dans sa chronique sur Click, que Sylvain et Cladus nous a fait regarder tout à l'heure quand nous mangeons. Voilà, Clémence, tu es là, nous t'embrassons. Bon, bah, je sais pas, est-ce que j'ai fait le tour sur le sujet de Manu, parce que donc j'ai lu un article de Slate et de Equinox Magazine sur le sujet. Et étonnamment, l'article de Slate est complet aussi. Hein. En fait, visiblement, il aurait des ambitions plus larges que simplement Barcelone et surtout que la Catalogne. Parce qu'en fait, il mise sur, faut que j'arrête de toucher à ça, pardon. Il mise sur une destitution du président de la Généralité Catalogne. L'année prochaine, puisqu'il est sous le coup d'une procédure, puisqu'il a refusé d'enlever les rubans jaunes de soutien aux prisonniers politiques du palais régional. Et donc, bah, il est sous le coup d'une procédure de destitution. Alors, je sais plus quelles sont. Enfin, ça doit être une cour royale, hein, je sais pas, ou peut-être la cour constitutionnelle, je ne sais pas trop. Comme ça, il y aurait des élections et Valls souhaite être candidat d'une plateforme, une espèce de truc transpartisan de tous les constitutionnalistes et donc l'emporter. Bonjour à toi, David. Je n'y connais pas grand-chose. J'ai envie de changer ça. Merci à toi pour cette super chaîne. Alors oui, bah de rien. Hein, c'est pas que moi. Hein. Pourquoi la Catalogne veut son indépendance? Alors oulala, vaste sujet, l'indépendance catalane. Bah déjà Comment dire, les régions espagnoles, hein, qu'on appelle les généralités, ont une très très large autonomie, hein, surtout quelques-unes en ont une plus grande que d'autres, notamment le Pays Basque, la Catalogne, je crois les Baléares et puis les Canaries. Et y a une longue tradition indépendantiste en Catalogne. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est plus ou moins forte que chez les Basques? Je ne saurais pas te dire non plus. En tout cas, elle ne s'est pas traduite par une armée indépendantiste, enfin des paramilitaires comme il y a eu au Pays Basque, hein, avec l'ETA. Mais en tout cas, il y a une tradition indépendantiste, ou en tout cas très très fortement autonomiste, assez vieille, hein, en Catalogne, et qui a pris beaucoup d'importance récemment, au point effectivement d'en arriver à la crise où on est, puisqu'on peut dire que, grosso modo, t'as une moitié des habitants de la Catalogne qui souhaitent l'indépendance et une moitié qui n'en veut pas. Donc à partir de ce moment-là, comment tu fais? Comment tu gères ça? Parce que là, c'est pas. Oui, il y en a qui veulent 10% d'augmentation, d'autres 5. On fait 7,5 et tout le monde est à peu près content. Là, c'est vraiment pile ou face, quoi. C'est indépendance ou pas indépendance. Donc bah, c'est tu peux pas être content d'avoir obtenu 2-3 bricoles quand de toute façon tu veux l'indépendance. Et les gens qui veulent pas l'indépendance, s'il y a indépendance, ils vont être un peu. Ils vont l'avoir mauvaise. Hein. Donc, je ne saurais pas te dire d'où viennent les racines profondes de ce mouvement indépendantiste très très fort, qui d'ailleurs est aussi bien à gauche qu'à droite, hein, dans la politique catalane, hein, et qui gêne en entournure tous les partis nationaux espagnols, que ce soit le Parti populaire, le Parti socialiste, le Ciudadanos, et qui a permis aussi à l'extrême droite Vox de faire du score, puisqu'en fait, bon, Vox, ils ont fait du score sur les. Des idées plus ou moins racistes, anti-immigration, anti-islam, du truc assez, assez costaud dans le genre, hein, un peu comme le RN en France ou les autres partis d'extrême droite en Europe, mais aussi parce qu'ils affirment très très fortement la nécessité d'une union espagnole et en dehors de la Catalogne, c'est quelque chose qui plaît et qui a permis d'engranger des voix sur l'idée d'une Espagne unie, parce que bon, évidemment, la Catalogne, en plus, si elle quitte l'Espagne, c'est un poids lourd politique du pays qui se casse. Je sais pas quoi on pourrait comparer en France parce que nous, l'Île-de-France, le poids lourd économique, c'est la région capitale. Mais je sais pas, c'est comme si toute la Nouvelle-Aquitaine se barrait, quoi. Ça fait quand même du monde, c'est quand même de ou Lyon, quoi. Enfin voilà, tout Rhône-Alpes se casse et il prend son indépendance. Et donc, c'est la deuxième ville du pays où non, la Bretagne, non, économiquement, la Bretagne, pardon, mais enfin, au niveau PIB et population, c'est pas comparable, quoi. Au fumin, la Bourgogne, restons sérieux, s'il vous plaît. Non.
Baline, Dijon qui se barre.
Ouais, Dijon qui se barre, bah ok, très bien, on le rend aux Espagnols, aucun problème. Hein. Allez, les Habsbourg, vous vous démerdez, ça nous pose pas de soucis. Non, c'est bon, hein, franchement. Sans cidre, on fait quoi? Mais c'est pas grave, le cidre, c'est en Normandie.
Tout à fait.
C'est le Kir en Bourgogne, hein. Donc bon, on peut s'en passer. Franchement, bon, les vins c'est plus chiant, ça je suis d'accord avec toi. À la Corse économiquement, ça serait pas très compliqué, hein. ou Savoie. Non, c'est pas comparable. Hein,
Non, garde la Savoie, parce que la tartiflette et
Oui,
la
mais je parlais.
fondue,
Moi, je disais ça
c'est trop
au
bon.
niveau économique. Hein, si tu prends le rapport du PIB sur le PIB total, c'est quand même pas. C'est pas comparable. Je parle le PIB barcelonais, c'est genre, je sais plus, 21% du PIB espagnol, quoi. C'est un truc comme ça. Donc, il n'y a pas de comparaison en France parce que tout est concentré en Île-de-France de toute façon et on n'a pas de rapport comme ça avec une grosse région. Mais ce serait un peu comme si effectivement, voilà, la région de Lyon prenait son indépendance. Et je parle bien de la grosse région, hein, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y avait quand même deuxième ville du pays, beaucoup d'habitants, hein, et quand même un poids économique non négligeable. Et effectivement, on perdrait, et ça, mon cœur saigne rien qu'à la pensée, hein, enfin, on perdrait Laurent Wauquiez, comme le fait remarquer Memel 1104. On perdrait aussi l'Auvergnat-Rhône-Loup, hein, qui peut-être devrait passer par des pare-feux ou des VPN pour pouvoir nous regarder. Mais on perdrait aussi la Savoie, c'est vrai, ce serait chiant. On perdrait l'Isère et on perdrait les Grenoblois et leur passion pour le ski. Mais bon, est-ce que ce serait une grande perte finalement tout ça? Moi, le débat est ouvert, je ne fais que poser des questions, hein. Mais en tout cas, bon, voilà. Et économiquement, si, pour revenir sur le sujet catalan, ce serait une perte pour l'Espagne assez colossale. Même la perte de l'Écosse, par exemple, sur le PIB britannique, n'est pas aussi importante que si la Catalogne partait de l'Espagne. Je ne sais pas si c'est pas la plus grosse région économiquement, quoi, plus que Madrid, en fait. Par contre, sinon, tu as raison, Daniela, ce serait la perte de la plus grande ville écolo de France. Effectivement, d'autant que Lyon pourrait aussi devenir écolo, donc. Ce serait quand même ballot. Bon, mais ça, écoutez, hein, ça, c'est pas grave. Hein. Ah, merci, Yoko. Le PIB catalan est important et c'est aussi ce qui motive beaucoup d'indépendantistes. Après, le PIB par habitant n'est pas si élevé. Oui, alors, effectivement, curieusement, hein, dans les mouvements indépendantistes européens, en tout cas, souvent, c'est plutôt les régions riches qui veulent faire sécession. Hein, le mouvement de la Padanie en Italie, c'était quand même les riches du Nord qui voulaient se débarrasser des pauvres du Sud. Ça a donné la Ligue du Nord, qui maintenant est devenue la Ligue. Hein, donc, cette histoire de Padanie, qui était complètement inventé, qui n'avait aucun support historique, hein, est un peu parti dans les limbes de l'histoire de la Ligue du Nord, hein, qui est devenue la Ligue tout court et donc plus de sa partie nationale pour avoir du vote dans le Sud, en fait. Et souvent, effectivement, c'est plutôt les régions riches qui voudraient se débarrasser et moins payer pour les autres. Un peu comme si les Franciliens voulaient l'indépendance par rapport à ceux de la France, un peu
Oui,
caricaturé.
cassons-nous.
Hein?
Oui, moi, je suis d'accord. La
Ah,
bavarde, tous ces Français-là.
ouais, mais on
On
serait quand
reste
même.
entre râleurs.
Ouais, et puis on vire ceux qui n'ont pas deux parents qui sont nés en
Ah
Île-de-France, c'est
bah,
ça?
c'est la base.
Ah oui, la base, ouais. On va se retrouver un petit peu plus tranquille quand même aussi. On aura plus de place pour remettre du maraîchage dans les terres arables de l'Oise, du Val d'Oise. On annexe l'Oise quand même.
Bon,
Ouais,
allez,
c'est
vas-y.
facile. Alors, oui, l'aspiration de la France, c'est l'improvence. Et la Flandre, il y a de ça aussi. Effectivement, gros là, pour la Flandre, en plus, c'est bizarre. Il y a eu un retournant parce que il y a 70 ans, 100 ans, c'était la Wallonie qui était riche à cause de l'industrie du charbon et donc des barons industriels. Et évidemment, avec la crise du charbon, la fin des mines, et maintenant, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est plutôt la Flandre qui est plus riche que la Wallonie, hein, qui a plus de chômage et moins d'habitants. Et finalement, les Wallons, les Flamands maintenant se retrouvent plus riches. Et effectivement, il y en a qui vont peut-être, enfin, qui veulent l'indépendance en tout cas, et ils font des très très gros scores et qui en plus se retrouvent à l'extrême droite. Bon, voilà. On veut bien vous laisser la Flandre française, dernière race. Je sais pas. Donc c'est-à-dire que Lille devient belge. Merci Yoko. Tu retrouves les discussions que tu as eues avec tes islamo-gauchistes de parents. Ok. Bah écoute, je sais pas. Moi, en tout cas, l'islamo-gauchiste de la chaîne, c'est pas moi. Hein. C'est pas Thibault non plus. Qui sait? C'est Jean, peut-être, je sais pas. Le frère de Mathieu, t'aimes les Tunisiens? Bah écoute, pourquoi pas? Moi, je n'ai rien contre les Tunisiens. Ce sont des gens très sympathiques. Donc voilà, je sais plus qui a posé la question. Pardon, qui a posé la question sur la Catalogne? Mais voilà, c'était ma réponse. Tu peux monter le chat un tout petit peu, parce que comme ça, je verrai qui a posé cette question. C'est pas Yoko. C'est David, voilà. Mais voilà, David. J'espère qu'on a un peu répondu à ta question. Même si, effectivement, ça mérite d'être creusé, hein, chaque mouvement indépendantiste a ses propres raisons. Et pour la Catalogne, c'est juste, c'est pas nouveau, quoi. Et ça a pris beaucoup d'importance depuis une petite une belle dizaine d'années. Ah, Yoko, tu vis en Catalogne? Oh, où ça, à Barcelone même, ou dans une autre ville de la côte, ou des terres, peut-être, je sais pas. Bon, pour beaucoup de Français, hein, la Catalogne, c'est surtout la Costa Brava. Gironne, hein, zut, attends, Lloret de Mar, hein, superbe Lloret de Mar, hein, c'est comme ça. Ou Barcelone, bien sûr, qui souffre du sur-tourisme. Bon, quelle heure est-il? Excusez-moi, voilà. Excusez-moi, nous avons un inspecteur de travaux finis qui vient jeter un coup d'œil. C'est à Tarragone, Yoko. Ok. Je ne sais pas où c'est, par contre. Ma géographie catalane s'arrête là. Tu vois, par la côte, je ne connais pas beaucoup. Et alors, est-ce que vous voulez... Alors, on va se garder la Commission européenne, vite fait. Enfin, pas vite fait, mais... Enfin, le Parlement européen pour la fin. Et parler rapidement. Alors, juste un truc, ouais. Pouf, pouf, pouf. Excusez-moi, je prépare en attendant que Thibaut soit disponible. Ah ! Tu m'as fait peur. Alors, dans De Lyon, tu dis, tu as lu mon fichier parce qu'il y a écrit, j'ai dans mes trucs, et là, et Sylvain peut le dire, le RN presque condamné pour les agissements. Le FN, non, c'est le FN, ouais. Je voulais écrire. Le FN, je vais pas y arriver. Le FN presque condamné pour les agissements du RN. Si, si, il y a, si. Hein ? Connard. Hein, quoi? Tu veux dire un truc? T'as une lance à faire? J'ai mal parlé de la Bourgogne. Ah ouais.
Parce qu'on peut bien parler de la Bourgogne.
Oui, il suffit de la connaître pour ça. Voilà, bonne soirée.
Voilà, c'était le petit mot bourguignon. Hein, voilà, c'est Dijonais qui se croit tout permis. Et qu'ils interviennent comme ça. Alors, au fur et à mesure, Sylvain, c'est le réalisateur de l'émission. Non, non, Sylvain, il glande. Il glande, en fait. Il passe, il fait comme s'il travaillait. Le réalisateur, c'est Thibaut. Thibaut que vous entendez, en fait, qui est la voix que vous entendez, en fait.
C'est rare. En même temps, je suis dérangé par Sylvain, forcément, je peux vous parler.
Oui, oui. Oui,
c'est Théo. Derrière moi, il me stresse.
Villani s'est fait accuser d'autisme. Il se fait accuser ou on lui a juste posé la question. Je sais pas trop. J'ai vu que sa réponse était très bien, mais c'est. On lui a juste posé la question. Ouais. Enfin, c'est pas une accusation. Hein. T'es autiste ou tu l'es pas. Enfin, c'est pas. On va accuser quelqu'un d'autiste. Tu roules en fauteuil, salaud. On accuse quelqu'un d'être handicapé. On accuse quelqu'un d'être malade. Je sais pas. C'est. Ça paraît pas à une accusation, quoi. On lui a dit. Mais je sais pas si c'est. Voilà, il paraît que ce sont des rumeurs qui circulaient. J'ai vu passer un tweet qui disait oui, c'est les équipes de Griveaux qui font circuler la rumeur. Bon, honnêtement, je m'en fous un peu. C'est pas, je pense, le moment le plus glorieux de la campagne municipale des la campagne parisienne des municipales. Après, je sais pas. Sachant que aujourd'hui, on estime que l'autisme est un spectre, toutes les notions sont redéfinies. Et qu'on est loin de la caricature de l'autiste qui dandine de la tête parce qu'il ne sait pas parler aux gens, qui est l'image qu'on en avait il y a encore 10-15 ans. Hein. Et tout ça était bien changé. Thibaut, c'est la voix dans votre tête. Merci sans le tyran. C'est bien vu. C'est, en fait, c'est notre conscience, Thibaut. Thibaut, c'est celui qui... c'est celui qui nous rappelle à l'ordre. dernière race, combien de cure-dents? Non, c'est pas un cure-dent, c'est une pince à épiler qui est verte. C'est pour ça que vous la voyez mal d'ailleurs, en fait. Vous voyez, hop, elle disparaît. C'est magique. Tac, tac, voilà. Dans De Lyon, on s'en fout de l'autisme, c'est débile comme réflexion, faut juste acter les idées. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Donc ça vient de Marlène Schiappa. Ok, homéopathie, je savais pas que ça pouvait venir de Marlène Schiappa. C'est étonnant, parce que. Enfin bon, ok. Coucou Calawan. Alors on y va, on continue. Oui, effectivement, la condamnation. Enfin, il n'est pas encore condamné le RN. Enfin, c'est pas le RN, c'est le FN en fait, mais et pas encore condamné. C'est une réquisition du parquet de Paris, hein, puisque seul l'État en fait est partie civile. Bref, a réclamé 11,6 millions d'euros de dommages et intérêts et au co-prévenu, hein, dans l'affaire des kits de campagne. Parce que bon, bah, surfacturation, prêt fictif, hein, c'était le micro-parti Jeanne, en fait, hein, pas le... Attendez, hop.
Jeanne, au secours!
Alors en fait, non mais ça avait été appelé en référence bien sûr à Jeanne d'Arc. Hein, et il y avait aussi ce qu'on a l'entreprise Riwal. Ça, j'ai plus quelle est la référence à Riwal. Mais il y a toute une magouille de prêts en fait qui étaient remboursés par l'État aux candidats, mais les candidats remboursés aussi à l'entreprise. Enfin bref, c'est pas mal. Parce qu'en fait, voilà, comment vous dire, les kits étaient vendus à 16 150 € aux candidats par Jeanne. Hein, et fourni par Riwal, donc j'imagine facturé également par l'entreprise. Hein. Et en fait, ça grugeait l'État, en fait, puisque les prestations étaient bien sûr surévaluées. Un système de copinage hein, qui trahissait l'esprit du remboursement des candidats. Hein. Ça permettait en fait au parti de remplir ses caisses à chaque élection, et notamment législative, où les départementales, par exemple, vous savez, où il y a plein de petits candidats qui ont forcément les moyens et qui n'ont pas non plus les ressources pour avoir un kit de campagne comme il faut. Et bien sûr, alors ça se fait beaucoup du mutualiser les moyens. Les partis plus ou moins gros proposent des kits de campagne, mais certains sont gratuits, d'autres coûtent juste quelques milliers d'euros. Effectivement, je trouve que 16 500 balles, un kit de campagne avec juste des logos et des affiches à modifier, c'est généreux, quoi.
Ah, c'est du bon papier, tu vois. C'est, hein, c'est du bon papier.
Mais je sais même pas si ça compte le papier, parce que, à mon avis, c'était uniquement la prestation de communication, quoi, je crois. Hein. Riwal, c'était un duc breton, chef de l'immigration bretonne à l'Armorique au début du 6e siècle. Les fondateurs, oh la vache! Et les fondateurs de lignée des rois de Domoné. Ah bah putain! Ah bah ça, c'est de la référence quand même, hein. Sophie Montel avait gardé une grosse partie de son bouquin sur les magouilles du FN et explique bien le problème des kits et formations des candidats. Tout à fait, dernière race. Après, là, sur la formation, il y a aussi d'autres magouilles qui sont parfois au seuil de la légalité. Mais ça, c'est plutôt au niveau du remboursement des frais annexes et parfois des formations fantômes aussi. Hein, c'est-à-dire que les gens viennent à une formation et en fait, ils passent plus de temps à manger ou à venir à un meeting qu'à se former. Et ça, pour le coup, tout le monde l'a un peu fait, mais bon, c'est... ça peut certes être légal, mais c'est là aussi c'est la trahison de l'esprit quand même. Quand on parle de Clovis, ouais, c'est vieux quand même. Hein, salut, je vais passer les euros pour la DGFiP. Tu peux faire un petit point de la prochaine LOL, s'il te plaît. Non, indignation, désolé, non. Je ne ferai pas un point sur la loi d'orientation budgétaire. Non, je peux pas. Je te renvoie vers LOLFI, hein, la mascotte de la LOLF, indignation. Je suis désolé, je ne pourrais pas t'aider. Puis les questions sur le d'ordre parlementaire, c'est le mardi après-midi avec Jean, qui se fera un plaisir de t'expliquer la LOLF. Hein. Mais en ce moment, c'est plutôt le PLFSS qui est en discussion avec le Sénat, qui n'a pas voté le budget de la Sécurité sociale, qui était jugé insincère. C'est quand même une lourde accusation. Et donc, qui va repasser à l'Assemblée nationale prochainement, en espérant qu'ils arrivent à faire un budget équilibré et qui permette de mettre tout le monde d'accord, y compris les partenaires sociaux, bien sûr, et le milieu hospitalier qui, bien sûr, aimerait que ce soit un budget à l'équilibre. J'en étais où ? Voilà. Donc, je ne sais pas quand sera donné le jugement, en fait. J'avais le délibéré début 2020. Bon, c'est pas plus précis que ça, l'article. En même temps... ça peut être un peu retardé aussi. Donc ça, c'était la réquisition, les 11 millions d'euros réclamés par l'État et pour l'État en fait, hein, aux partis et aux co-prévenus, hein, comme c'était dit dans l'article. Et peut-être que ce sera moins, peut-être que finalement, enfin, ils seront pas relaxés, je pense, hein, mais peut-être que ce sera plus d'ailleurs. Peut-être que ce sera réévalué, que certains seront laissés tranquilles, d'autres plus ou moins chargés. Il y en a qui risquent la prison aussi quand même. Hein, donc quand même il risque gros, quoi. Voilà. Et voilà, comment vous dire. Je sais pas, ça vous étonne, vous, une telle réquisition, ou vous trouvez ça normal? Est-ce un procès politique? Est-ce que c'est du lawfare, hein? Est-ce que c'est du lawfare? Ton oncle est en prison, promise made. Ah merde, c'est con ça. J'espère que c'est... Est-ce qu'on peut te demander pourquoi il est en prison, en fait? Hôpitaux, en même temps, on leur a enlevé des moyens depuis 10 ans, on leur a rendu moins que ce qui a disparu en un an. En leur demandant d'être content. Oui, d'accord. Ah, c'est ton... ton oncle est maire de Levallois. D'accord. Bah écoute, je suis désolé pour lui. Bon, après, il a la santé, ça va, c'est pas la pire. Elle est toute neuve, hein, c'est pas la pire prison de France. Elle est en plein centre-ville en plus. Dans le 14e, hein, entre d'Enfer et d'Enfer Rochereau et les Gobelins. Bonjour Zaven, quelle est mon orientation politique sans discrétion? Orientation. Orientation. Nous allons te répondre, mon cher Zaven. Voilà. Hop. Merci Aileen pour orientation. Comme quoi, Acropolis, la chaîne des chômeurs et des rentiers, c'est toujours. Ah, pourquoi Théo? Qu'est-ce qui s'est. Ah, pour, pour Promise Mind et la chaîne des étudiants qui ne sont pas en cours, bien sûr. Bon, bah, ça, j'avais prévu de parler un petit peu du RN et du réquisitoire. C'est fait. Et je voulais juste toucher un mot sur Génération parce que j'ai découvert que, quand même, ils avaient. Alors, attention, ils ont un nouveau collectif national. Allez, vas-y, balance. Vous voyez là, on a un. Alors c'est bon, c'est un choix hein, qu'ils ont
c'est
fait.
Illisible.
Voilà, c'est ce que j'attends. Je cherchais le mot que je cherchais, Thibaut. Merci. Alors Hamon n'est pas mort politiquement. Alors Hamon, il a pris du recul. Hein. Son parti est toujours vivant, toujours debout. Une partie de Catane qui a mal tourné. Ah merde, c'est ballot pour les blancs. Hein. Et blanc sur jaune, c'est terrible. C'est terrible. Alors pensez aux daltoniens. Hein. En plus, certains mots en gras, d'autres pas en gras. Pour le coup, ils n'ont pas mis 16 000 dans la com. Merci, sans le tirant. Très bien. Ah oui, mais merci de me permettre. Effectivement, j'ai même pensé à ça. Une activité que j'adore dans cette émission, c'est critiquer les graphismes pourris, bien sûr. J'avais oublié que j'adorais ça. C'était ça, c'est vivement les campagnes là qu'on puisse un peu rigoler. Et donc, vous avez le fondateur hein, qui est toujours là, qui est Benoît Hamon. Hein, vous le voyez, il est là. Il est là. En tout petit, hein, modeste. Hein. Vous avez un pôle exécutif. Vous avez les responsables de jeunes générations. Vous avez l'espace des relations extérieures. Un espace Europe et international et les coordinateurs nationaux qui sont Claire Monod et Guillaume Ballas hein, donc ça n'a pas changé et donc je vais le montrer comme ça nouveau collectif national il a un mois quand même hein, pourquoi c'est aussi petit je ne sais pas quelle est l'idée derrière cette organisation je ne sais pas non plus je ne suis pas chez Génération hein, comme beaucoup de gens hein, ça se trouve, c'est un modèle sur PowerPoint, non? Ça fait un peu modèle PowerPoint? Un peu, hein? Après, ça, ils déclinent comme ça, mais je sais pas, c'est. Ah oui, Joris, c'est con l'avantage d'Hexagone, c'est d'optimiser l'espace disponible. Là, c'est raté, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, ça. C'est peut-être que c'est, comme dit Dark Gogis, pour montrer une organisation. Qui n'est pas pyramidal, ouais, sans doute, c'est horizontal, tout le monde se parle. Voilà, comme ça, vous avez les noms des gens qui sont investis. Hein. Ah, tiens, Julien Zloc, il est chez Génération. Oh. Ah, ouais, je savais pas. Ça, c'est marrant. Excusez-moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai milité il y a maintenant ça, plus de 10 ans. Mais ils font quoi avec autant de monde, Génération? Ils ont fait l'initiative des Européennes, ils veulent faire quoi à part de la propagande? Alors, que fait Génération? Alors, c'est une bonne question, Memel, hein, regardez, ils ont. Ils ont élu leur collectif national, ils ont approuvé. C'est-à-dire qu'on leur a proposé le collectif national et en fait, ils l'ont approuvé à 1032 voix pour, 60 voix contre et 108 abstentions. Voilà, 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 voilà. Donc en fait, vous additionnez tout ça, vous tombez sur le chiffre magique et un poil trop rond, pour être honnête, de 1200 personnes qui ont validé. Qui ont validé cette organisation. Et 1200, c'est quand même fou. C'est quand même incroyable d'être tombé aussi rond, quoi. Je te sens. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, mais.
Moi, je dis quand même, tu critiques beaucoup les chiffres.
C'est vrai, ça. Merde, alors. Non, mais. Je sais pas, vous en pensez quoi avant? Très bonne question, réponse. Ouais, hein. Donc, en fait, bon, allez, on va leur faire confiance.
C'est vrai qu'ils ont peut-être rajouté 1-0.
Non, alors quand même, je pense que. Mais enfin, ça veut dire que potentiellement, ils ne sont que 1200. En tout cas, ils n'osent pas prétendre être plus que 1200. Donc, c'est l'état de génération où ça finit par 5 millions. Oui, c'est ça, où on fait un chiffre bizarrement trop compliqué avec que des chiffres différents. 1235,7. Enfin, bon, ça ne pourrait pas aller là, mais si c'est un choix par tirage au sort des votants, c'est legit. Ah, je sais pas. Je sais pas, Dark Doji. Non, ils font pas de tirage au sort des votants. Hein. Bref. Donc après, ils ont aussi voté par espace. Donc là, il y en a beaucoup moins. Ah non, c'était plus dispersé. Attendez, j'ai pas regardé si on tombait sur 1200 à chaque fois. Ah, attendez, 1033 plus 55 plus 112. 1200, ouais. Ah, tout le monde a voté tout le temps. Hein. 983 plus 114 plus 103. 1200. Ouais, ok, donc c'est toujours 1200 votants dispersés un peu différemment. Donc à chaque fois, un bon millier qui valide la proposition. Je ne sais pas pourquoi des gens sont abstenus ou ont voté contre. Hein, mais ouais, c'est un peu louche quand même. Hein, je vous cache pas. Hein, moi, j'étais surpris quand j'ai additionné et que je suis tombé sur 1200 tout pile rond. Ça m'a un peu surpris. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font, Génération ? Eh bien, en fait, ils présentent des candidats au municipal, mais en fait, ils n'arrivent pas à y aller tout seuls, quoi. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les ressources. Ils n'ont pas de dynamique autour d'eux. Et par exemple, à Paris, ils ont voté pour s'allier à la liste Paris en commun, qui est le nom donné à la liste de. Donc, de Anne Hidalgo, qui n'est pas encore officiellement candidate, mais bon, oulala, quel suspense ! Sera-t-elle candidate à sa succession ? Je ne sais pas, moi. Oh là là, et toi, t'en penses quoi pour... Oh, je ne sais pas et... Non, j'arrête.
Ce craquage.
Oh là là, ce craquage complet. Donc, on ne sait pas si elle sera candidate. Mais en tout cas, ils ont décidé à 54%, ce qui n'est pas une surprise, parce qu'ils avaient déjà annoncé que... Karine Petit, qui est la maire sortante du 14e, qui était historiquement socialiste, mais qui a rejoint Génération, était tête de liste de Paris en commun. Donc, mais d'ailleurs, ça s'est joué à 54% contre. Attends, tu peux enlever. Parce que les gens vont voir mes notes. Attends, c'est les secrets de fabrication, quoi, quand même. 50, que je trouve quand même, voilà mes chiffres, 54,2 hein, en faveur du choix de l'alliance avec donc le PS, enfin bon, bref, la mère sortante, quoi, contre 42% pour une alliance avec Europe Écologie, les Verts. Voilà. Je sais pas si ELV aurait accepté l'alliance avec Génération, sachant que c'est pareil pour le PS, hein, remarquez, mais vu qu'il y a quand même pas mal d'anciens Verts aussi et qui sont partis fâchés. Je sais pas si tout le monde aurait été content de se retrouver. Coucou, on revient. Alors, à savoir que Génération a dû s'asseoir pour pouvoir faire l'alliance avec la liste qui sera menée, suspense, par Anne Hidalgo. Ils ont dû s'asseoir sur leur ambition de 14 conseillers de Paris et d'en avoir que 6 ou 7. Parce que 14, c'était du pur délire. Hein. Ils ont fait quand même que 4% à Paris aux européennes. À un moment, bon, tu as ce que tu pèses, quoi. Hein. C'est normal.
C'est bien
hein.
D'avoir de l'ambition.
Hein ?
C'est bien d'avoir de l'ambition.
Bah, après, en égo, c'est normal. T'arrives pas avec ton ambition à la baisse. Oh, si vous nous en donnez deux, nous, vous savez, on sera contents. Hein. Oh, bah d'accord. Non, ça marche pas comme ça. Évidemment, tu viens avec des demandes importantes, quoi. Mais bon, 14, c'était beaucoup quand même. Donc ils ont voté ça et donc voilà ce qui m'a fait dire tout ça pour ça. Faire Génération, quitter le PS avec fracas et finalement faire une liste avec lui quoi. Bon, je sais pas ce qu'en pense Benoît Hamon parce que sur son Instagram il prend des photos avec son chat. Attendez, hop. Ah c'est Benoît Hamon, c'est pas Benoît Hamon, ok. Je ne connais pas son Insta à Hamon. Ah là là, terrible. Terrible. C'est avec un underscore, c'est pour ça. Comment ça ? Voilà, tu peux passer tu peux passer chez nous. Merci Sylvain pour le chat, pour le clip. Penses-tu, Griveaux et Venise sont compètes ? Alors oui, vous voyez, il est tombé amoureux de son chat, il s'occupe quoi. Je sais pas si il fait du bateau. Futur ministre de la Solitude, donc. Allez, tu. Allô? Ah, il est parti en Grèce, hein, ou je sais pas, il a pris des biscuits Papadopoulos. Voilà. Voilà. Donc, oui, non, mais bon, bref, Benoît Hamon, qui est seul avec son chat et sa fille, et qui s'est laissé pousser la barbe. Je sais pas, j'espère que vous appréciez, hein. L'instant de la solitude. Ah, il est très beau son chat, hein. Bah oui, bah regardez-moi ça, c'est pas mignon, quoi. Regardez-moi ça. Oh, je suis pas mignon. Oh, gnou, 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 gnou. Regardez ces petites taches sur la truffe, là. Ah, bah oui, c'est sûr, hein. Bon, après, les gens, ils sont fans, hein, comme tu es beau, mon Benoît. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'il a? Après, il est toujours, c'est toujours hashtag génération, hein, avec le lien vers le site. Il reste les stories Hop is back, hein, qui était le slogan de Benoît aux Européennes. Il a lu un bouquin sur Göteborg, cette très très belle ville suédoise, qui doit être un polar, hein, je ne sais pas. Et des photos du chat, bien sûr. Et ça, c'est quoi ça? C'est sa fille? C'est qui? C'est. Il n'y a pas de commentaire. En fait, il. Ah oui, il publie les. Ah non, nous toutes en famille. Ah, il était à la manif, d'accord. Il était à la manif samedi dernier. Bah, la barbe, c'est la marque de la maturité. C'est pour montrer qu'il est au-delà de tout ça maintenant. Et c'est vrai que ça lui va bien. C'est vrai. Bah, il a 50 ans quand même, hein. Heureusement que ça lui va bien quand même. Il pourra bientôt jouer au Père Noël avec la barbe blanche. Voilà, excusez-moi, c'était la petite parenthèse sur Benoît Hamon, mais c'était pour finir celle sur la petite partie sur Génération, qui, dans la plupart des villes, fait alliance avec bah, les forces de gauche, hein, et souvent, eh ben, il se trouve qu'il y a le PS dedans, et bon, bah, c'est un peu bizarre d'avoir créé un parti pour quitter ces salauds de socialistes, et puis en fait, après, retourner avec eux au municipal. Je sais bien que c'est pas les mêmes élections, mais c'est quand même particulier, et ça me surprend. Et ça me surprend. Au moins autant que ce chiffre de 1200 adhérents qui ont voté pour le collectif national. Chiffre trop rond pour être honnête. Peut-être qu'ils ont fait un arrondi à la hausse. C'est ça. Ils ont fait l'arrondi solidaire. C'est tout.
Moi, je suis sûr qu'ils vont à baisse parce qu'ils sont très humbles.
Ils sont humbles. Ah oui, ils en avaient. En fait, ils avaient 2000 et ils se sont dit non. Les
Ah.
gens ne le croiront pas.
Ouais.
Ils se sont dit 2000 ronds, ça va pas. Enlève-en 800. C'est tout. Le PS, ça allait bien avec LREM. Ah bon? Où ça? Où est-ce qu'il y a des alliances avec LREM, l'Auvergnate? Ah bon? Je suis étonné parce que là, ils sont plutôt dans une logique. Non, non, le curseur s'arrête à En Marche, quoi. Hein. Et avant En Marche. Hein. R7, t'es vraiment surpris qu'il fasse alliance. Bah, non, en vrai, je suis pas surpris, mais juste quand même un peu étonné, quoi. Je pensais pas que. J'avais bien cru qu'ils allaient pas bien, mais je pensais que ça irait aussi vite, quoi. Mais bon, c'est normal, en même temps, c'est dur. C'est dur. Et Paris, par exemple, faut quand même. Si tu veux une liste sur tous les arrondissements, il faut 527 candidats. Et autant dire que, comme on dit, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, hein. Alors Théo, quand est-ce que le PS fera le bilan du dernier quinquennat et des dernières années en général? Alors Olivier Faure a commencé, hein, il a fait un bilan, un droit d'inventaire, il a critiqué François Hollande, ce qui est pas simple, hein, y compris de son, enfin, ni du point de vue du parti, ni de son propre point de vue, hein, parce que Olivier Faure, il a été très très proche de François Hollande, hein, c'était son dire cap pendant longtemps, quand enfin, directeur du cabinet, pendant très longtemps quand François Hollande était le chef du parti. Donc, c'est un travail qu'Olivier Faure, donc l'actuel secrétaire général, non, premier secrétaire, oui, premier secrétaire du Parti socialiste, donc actuel, a commencé à faire. Mais bon, c'est pas simple. Hein. Alors, il faut le faire savoir. Oui, alors, oui, Théo, oui, il faut le faire savoir. Maintenant, tu n'es pas sans remarquer que le PS a des problèmes de communication aujourd'hui parce que quand il parle, on l'écoute beaucoup moins qu'auparavant. Et forcément, bah pour l'instant, ça reste un peu de niche. Hein. Qui est au courant, par exemple, que le PS est en train de se mettre au clair sur les questions de laïcité, par exemple, alors qu'ils avaient laissé le flou se faire pendant quelques années? Et bon, le problème, c'est que quand vous pèsez plus que 6% aux européennes, on vous tend beaucoup moins souvent le micro que quand vous en pesez 15, 20 ou 30. Hein. C'est sûr. Mais même Olivier Faure, il n'est pas à la gauche du PS. Alors, pour répondre à la dernière as, en même temps, eh ben justement, c'est Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, actuel député de Seine-et-Marne, dans le Sud. Qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce qu'on peut dire que le PS, c'est le parti qui descend malgré les silences des médias?
Ouais, exactement, ouais. Et effectivement, on peut dire, Théo, que le caca de Hollande a fait très très mal au Parti Socialiste, où ils ont. En fait, ouais, Hollande a plus sûrement tué le PS avec une victoire électorale en 2012 que plein de défaites, quoi. Ouais, non, c'est assez paradoxal. Ouais, c'est juste que la tension politique au sein du PS était devenue trop forte entre l'aile droite, l'aile gauche. Et l'impréparation à la prise de pouvoir, hein, ça a fait éclater les. Pour reprendre l'image de qu'aime bien Édouard Philippe, apparemment, la poutre a trop bougé, quoi. Elle a trop travaillé. Hein. Édouard Philippe, il dit que la poutre travaille. Hein. Bonjour à toi, Pimpon. Non, pomme d'Apimp. Ah, pomme d'Apimp, ok. Mais ils vont faire un meilleur score au PS au municipal parce qu'il reste pas mal à planter au niveau local où c'est vraiment mort. Alors, effectivement, R7, ils vont pouvoir sauver les meubles un peu. Enfin, je pense, hein, après, il est possible qu'ils puissent sauver les meubles quand même au PS dans certaines villes parce qu'ils ont des sortants populaires, enfin, en tout cas appréciés dans leur ville, que la prime au maire sortant, quand même, elle existe. Que comme En Marche va faire des scores de merde au municipal, enfin, en tout cas, après, c'est ce qui s'annonce, hein, puisqu'ils n'ont pas d'implantation locale et qu'en fait, les seuls candidats En Marche. Qui pourront avoir une chance de gagner, en tout cas actuellement, dans l'état actuel des choses, ce sont des maires déjà implantés, qui seront juste soutenus par En Marche, qui va pouvoir ainsi placer des adjoints, des conseillers municipaux. Ça peut aider le PS à sauver quelques villes comme Nantes, Rennes, bah Paris, hein, peut-être, Lille, ça peut-être, Strasbourg également, peut-être même en gagner d'autres, allez savoir. Hein, mais c'est pas facile. Effectivement, Dordogne nous parle de la France insoumise. Ils ont le même problème qu'En Marche. En fait, c'est qu'ils ont certes plus de militants implantés localement, avec l'expérience du PC, trucs comme ça. Mais bon, les municipales, c'est pas facile. Alors, R7, les sondages donnent quoi à Paris? Alors, écoute, je vais pas commenter les sondages parisiens parce que là, c'est trop tôt encore. Ils donnent des scores assez serrés, mais le problème, c'est que très difficile d'interpréter un sondage parisien parce que le problème de Paris, et qui est le problème aussi de Lyon et de Marseille, c'est que il y a les arrondissements. Et que ça se joue aussi là-dessus. Par exemple, tu peux sauver ta ville en ayant assez en gagnant, sans gagner un arrondissement, tu peux avoir quand même des conseillers qui vont monter au conseil de la ville. Et si tu fais un score de trop petit, tu n'en as pas du tout. Mettons que par exemple Hidalgo n'arrive pas à avoir ne serait-ce que un conseiller de Paris issu du 16e, voire du 15e, ça peut faire perdre pas mal de conseillers et auquel cas faire basculer des majorités en fait. Alors en face de Gérard Collomb, il y a une espèce de hype actuelle qui tourne autour de la tête de liste écolo. Bah, il peut se retrouver face à Kimmelfeld, hein, son ancien dauphin. Il y aura un candidat LR, bien sûr. Hein, donc, en fait, ouais, Gérard Collomb, il se retrouve avec du monde face à lui. Hein. Alors, effectivement, Red, on peut se retrouver à Paris sans majorité, en tout cas sans majorité claire. Même si, quand même, hein, avec les primes à la majorité, les primes aux premières arrivées par arrondissement permet quand même d'avoir des gros blocs. Mais ouais, on peut imaginer une majorité un peu bizarre, un truc étonnant. Il faudrait faire des simulations en fait. Il faudrait avoir un simulateur avec des scores. On pourrait faire des scores par arrondissement et ce serait intéressant. Avec le nombre de conseillers de Paris qui sont envoyés pour voir un peu. Moi, j'avoue, je ne sais pas faire ça. Si quelqu'un est là, maîtrise bien les tableurs et peut nous faire un petit. Ah oui, en plus, à Lyon, enfin, un petit simulateur, pardon, je finis ma phrase, un petit simulateur pour les arrondissements parisiens. Sachant que donc c'est plus 20 élections qu'il y a à Paris maintenant, mais 17. Puisque nous avons fusionné les 1, 2, 3 et 4e arrondissements pour en fait, arrêter avec les arrondissements de moins de 20 000 habitants et avoir quand même des conseils d'arrondissement plus équilibrés, avec donc maintenant un Paris-Centre qui est à peu près aussi gros que les 10e et 11e et 9e arrondissements pour arrêter d'avoir donc. Des conseils de Paris qui est présenté beaucoup, peu, beaucoup beaucoup trop peu d'habitants, en fait. Ouais, Colomb, là, il va avoir du mal. Hein. Et effectivement, la division à l'REM peut aider un challenger comme Grégory Doucet à remporter la mise. En plus, en jouant sur les effets par arrondissement, ça peut l'aider. Ce serait, alors imaginez si la ville de Lyon tombe entre les mains d'un candidat écolo. Alors là, là, ce serait extraordinaire, électoralement parlant. Ce n'est pas mon avis personnel, hein, mais non, ce serait assez incroyable. Et ce serait peut-être la sensation. Enfin, si ça arrive, ce serait la sensation de l'élection, quoi. Ça, un peu, comment dire, on verrait moins le reste, quoi. Un peu comme si Griveaux gagne Paris, En Marche pourrait dire bah quand même on a gagné la capitale, quoi. C'est toujours si vous rappelez, je sais pas, mais l'élection de 2001, l'élection municipale de 2001, le PS, enfin la gauche, avait gagné Paris et Lyon. C'était vraiment, elles avaient gagné, enfin, la gauche avait gagné Paris et Lyon. C'est pas qu'elle avait conservé, ça avait permis de masquer, en tout cas au moins médiatiquement parlant, la branlée, en fait, de la gauche dans les villes moyennes, quoi. Ce qui préfigurait la défaite de 2002, mais ça, en fait, personne ne l'avait vu, finalement. On se dit, oh, mais ça va, il y a Paris, il y a Lyon, c'est bon, c'est gagné. Non, non, yo-yo, c'est pas gagné. Un axe vert Grenoble-Lyon, exactement, dernière race, ouais. Avec la division ELVPS à Lille, les écolos pourraient gagner Lille aussi. Lille, ça peut être une ville, mais ça peut être gagnable. Je sais pas trop si ELV a la capacité de gagner Lille. Faut voir. Ça me paraît un peu gros quand même.
Je ne sais pas si Martin se représente ou pas.
Alors Martin, oui, ne se représente pas. Et je ne sais pas qui va partir. Je ne sais pas qui va partir pour les socialistes, sachant que finalement elle va rester indignation. Bah, je sais pas, parce que le problème, c'est que elle avait deux plans qui ont foiré. Elle a fait venir quand même, comment il s'appelle, un mec, elle a fait venir de Massy, quoi, dans le Nord, qui était censé prendre sa relève, et ça a été une catastrophe intersidérale. Donc c'est tout ça est pas très bien géré, mais je crois qu'elle veut plus y aller, quoi. Hein, donc je suis pas sûr que, enfin, si c'est Aubry la candidate, je sais pas. Je sais pas, ça, enfin, ouais, si les écolos remportent Lille, après je sais qu'ils sont, c'est plutôt des bosseurs, les verts, enfin les verts lillois, et que ça fait longtemps qu'ils travaillent, bon, donc ce serait pas non plus complètement la surprise, mais il est possible, enfin les écolos devraient faire des gros scores dans les grosses villes, hein, si on en croit les européennes, hein, faut enlever quand même entre 5 et 10 points à chaque fois, parce que le maire sortant, parce que c'est une chose les européennes, c'en est une autre les municipales, mais on parle plus d'écologie, là, enfin, on se met à parler beaucoup du vélo, et bon, bah, souvent c'est la prime aux listes qui en parle depuis longtemps, quoi. Donc on verra si ça joue et à quel point ça joue, est-ce que ça les suffira. Après, le truc, c'est pas de faire 50% au premier tour, hein. C'est pour ça qu'à la limite, il suffit de faire 23% au premier tour, si vous êtes la liste en tête. Que vous fusionnez avec la deuxième liste de gauche qui est à 20%, bah, vous avez gagné, en fait. La droite, si vous êtes en triangulaire, en plus, c'est encore plus facile. Donc ça peut amener à des surprises, hein, si en plus il y a En Marche qui fusionne ni avec la droite ni avec la gauche. Ça peut aider, quoi. LFI se rangeait derrière ELV, même elle, à Lille. Waouh, ok. Il y en a un qui est en train de réussir une bonne fusion des gauches, c'est... C'est Éric Piolle à Grenoble, hein. Il a tout le monde là, ça y est. Il a réussi à avoir tout le monde, donc il aura pas de dissidence de gauche, en tout cas. Enfin, il a même les socialistes qu'il avait vaincu quand même aux dernières élections. Donc gros tour de force d'Éric Piolle, hein, qui a réussi à n'avoir personne de gauche face à lui. Chapeau, quoi, dans le genre. Donc c'est ok, mais donc à Lille aussi il y aura LFI avec les Verts. Oh, impressionnant. J'aimerais savoir la différence de score des écolos entre les gens qui prennent la voiture pour le boulot et les autres, car j'ai l'impression que dans les grandes villes, la piétonnisation et le développement du vélo est très clivant. Oui, R7, mais ça, de toute façon. Après, je sais pas, je ne saurais pas te dire. Aucune idée. LRM a traité ELV d'extrémiste de gauche. Ah, même elle. Ah, ok. Bah, pourquoi pas, hein, effectivement. Allez, on va passer. On va faire un peu d'Europe. Alors, c'est en fait, là, c'est la plénière à Strasbourg. Et c'est con, il n'y a pas de débat. Je voulais vous mettre en fond, vous montrer les débats. Mais en fait, là, pile poil, il n'y a pas de débat à ce moment-là. Je dis. Eh merde, c'est fini, d'accord. Ça reprend à 15h. Ah bah. Ah non, c'est fini. Ah merde, bon bah voilà. Bah, ça s'est terminé tout à l'heure. Ah bah tant pis. Regardez. Mets-nous l'ordre du jour, s'il te plaît. Voilà, ça c'est l'ordre du jour. Qui est clown indignation? C'est Jadot, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas suivi, excuse-moi. J'ai pas tout vu. Et surtout, en fait, ce qu'il y avait, c'était à midi hier, l'élection, oula, de la commission. Puisqu'en fait, il a fallu valider la commission. Jadot, cette blague dans De Lyon. Ok, pourquoi? Pourquoi est-ce une blague? Plus que les autres? Moins que les autres? Qu'a-t-il fait encore? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qu'il a fait encore, ce pauvre Yannick Jadot, pour que vous le traitiez de clown quand même? Il a réclamé une minute de silence car le Parlement européen n'aurait pas rendu hommage aux 13 militaires alors qu'il l'avait fait la veille. Ah, il a fait ça? Ah merde! Ah, ok, raté, c'est dommage. Bah oui, écoute, hein, bon, bah écoute. Ah, bon, en même temps, les militaires, c'est pas son truc à Jadot, hein, c'est un pacifiste, hein, tu sais. Donc, il a pu rater la minute de silence, hein, mais j'ai vu qu'il y avait même eu des minutes de silence entre groupes. Enfin bon, toute l'Europe a rendu hommage à nos 13 soldats qui sont morts au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Et donc, vous avez pu suivre la minute de silence à l'Assemblée nationale par nos députés. Hommage donc républicain et national pendant les QAG. C'était son manque d'activité, Cladus? Ouais, mais il aurait pu faire attention quand même. Alors, non, Julien, hein, c'est pas un accident, hein, puisque c'était dans une phase de combat. Enfin, si j'en crois les rapports officiels, hein, puisque quand c'est un accident, ils le disent. C'est arrivé, hein, des soldats morts au cours de manœuvres ou. Dans un accident. Alors, ça peut être d'ailleurs parfois, je sais pas, en tout cas si j'en crois certaines fictions, on dit que c'est un accident, c'est pour maquiller des opérations un peu secrètes, mais on va pas faire croire que c'était pas un accident, c'était vraiment pendant un moment de combat. Enfin, je vois pas très bien.
En tout cas, c'était en opération.
C'était en opération, c'était pendant un combat, en tout cas en opération. Visiblement, et c'est parce qu'ils étaient feu éteint qu'ils se sont percutés. En tout cas, c'est si j'en crois le rapport que j'ai entendu et lu. Voilà, c'est. Voilà, donc, c'était pas un accident, quoi. Il n'y a pas. Voilà, pour le coup, en plus, même au niveau de la propagande de l'armée française, hein, pour dire des gros mots, il y a tout intérêt plutôt à dire que c'était pendant un combat, c'est quand même plus glorieux que de prétendre un accident, mais sachant qu'ils disent un accident. Alors, effectivement, tu as raison, Julie, ils ne sont pas tombés sous le feu ennemi. Mais si c'était pendant un combat, ouais, c'est quand même. C'était pendant un combat, donc bon. Quand on dit accident, ça veut dire que on vous a fait tomber quelque chose, quoi, enfin, ou que c'était une erreur de manœuvre pendant un exercice, quoi. Apparemment, si j'ai bien compris, ce sont des hélicoptères de soutien aux troupes au sol, et ils étaient très bas et se sont percutés. Et chacun avait entre 6 et 7 personnes de l'équipage et ils sont tous morts, quoi. Ouais, c'est effectivement, ça paraît ballot comme ça. Enfin, dit comme ça, on se dit ok, ouais, c'est une collision. Mais enfin, ça, toute proportion gardée, ça me rappelle l'accident d'hélicoptère. Voilà, pourquoi c'est un accident, hein, pour l'émission TF1 qui avait été annulée au Brésil, et là aussi qui avait été absolument, enfin, très meurtrier puisque tout le monde était mort. Et donc évidemment, l'émission avait été annulée, quoi. Là, en l'occurrence, on peut pas annuler l'opération, quoi. Un tigre, un caracal. Ok, merci Mélodia. C'était même pas les mêmes modèles d'hélicoptères, d'accord. Donc, oui. Et alors, donc ça veut dire que donc la commission a été validée. Alors, si vous avez suivi avec nous, on avait quand même suivi l'audition d'une dizaine de futurs commissaires, hein, dont celle de Sylvie Goulard, hein, qui s'est retrouvée rejetée par tous les députés. Il n'y a que le groupe Renaissance qui a voté pour. Hein. Et donc Sylvie Goulard remplacée par le très talentueux Thierry Breton, hein, et sûrement gauchiste, hein, on peut le dire, hein, le gauchiste de Thierry Breton, et une commission qui a été approuvée quand même par 461 votes, hein, c'est pas rien, contre 157 voix et 89 abstentions, dont le groupe des Verts, hein, qui a voulu ne pas marquer de soutien à la commission parce que elle est pas tip top, mais quand même, J'ai lu le communiqué en fait de la coprésidente du groupe Vert, Ska Keller, quand même montrer son ça et faire preuve de bonne volonté et encourager les quelques petite main tendue vers les Verts que Van der Leyen a fait envers les écolos. Hein, et donc, les écolos, les Verts au Parlement européen n'ont pas voté contre la future commission, mais se sont abstenus pour dire « Ok, on a bien vu que vous ne nous étiez pas complètement hostiles. On s'abstient, on ne vote pas contre vous. » C'est pas innocent, hein. Le stylo est vert, donc il disparaît. C'est pas innocent, c'est-à-dire que c'est inédit, hein, le Parlement européen aujourd'hui n'a pas de majorité stable, contrairement au précédent Parlement, puisque il n'y a plus la cogestion droite-gauche qui est possible. Hein. Chaque majorité s'obtiendra avec au moins trois groupes, hein, puisque s'il y a une alliance entre les chrétiens démocrates et les sociaux-démocrates, eh ben, il faudra qu'ils aillent chercher soit les libéraux, soit les écolos, ou les chrétiens démocrates devront aller chercher les libéraux et les écolos, ou les libéraux devront aller chercher les verts et les socialistes. Enfin, vous voyez que tout ça peut se faire comme ça, ou à quatre groupes. Et donc, les Verts disent aussi, on a besoin de nous quand même, tu verras au fur et à mesure. Et Van der Leyen l'a bien compris, hein, sa commission est très, très, très marquée écologiquement parlant. Enfin, ils ont fait beaucoup d'efforts pour dire oui, on est écolo, etc., etc. Alors, elle a fait un discours, donc, Van der Leyen. Que j'ai lu pour vous, hein. Tu peux nous le montrer là. Tu peux, vas-y. Alors, ah non, c'est pas le discours ça. Attends, parce que je me suis trompé de lien. Hop, voilà. C'est bon. Vas-y, tu peux. Alors, ça, c'est donc la commission. Vous voyez Ursula au centre, entourée de tous ses potes commissaires. Donc, c'est quasiment paritaire. Hein. Elle s'en est bien vantée pendant son discours au tout début, puisqu'il y a 12 femmes et 15 hommes. Alors, bon, c'est pas tout à fait la parité. Hein. C'est presque la parité, quoi. Disons qu'un mec dirait « Ouais, c'est bon, là, c'est bon, il y a 12 meufs, ça va, quoi. » Bon, par contre, je pense qu'une féministe dirait bah non, il en manque quelques-unes quand même. Au moins deux, et elle est, j'irais pas jusqu'à dire qu'elle est jeune, cette commission, mais il y a quand même 6 de moins de 50 ans. Et en fait, il y en a 20 entre 51 et 70 ans, donc c'est quand même des quinquas et des sexagénaires, hein, des gens, pas en fin de carrière, mais des politiques plutôt, qui ont déjà une bonne carrière derrière eux, dans leur pays respectif ou. Au sein des institutions européennes, soit députés européens, certains ont déjà été commissaires, hein, et c'est des sortants, d'autres ont déjà présidé le Parlement européen, hein, comme Josep Borrell, qui est le plus âgé, hein, puisqu'il y en a un de plus de 70 ans, Josep Borrell, qui a 72 ans et qui est le représentant pour les affaires étrangères. Des boomers, Jirpos. Ouais, pas tout à fait. Alors, ouais, oui, les plus vieux, oui, effectivement, ouais, c'est les boomers, puisque techniquement, vous êtes boomers si vous êtes né avant 1964. Bonjour Adrien, comme le développement durable est dans ton domaine, que penses-tu des compétences de la commission dans ce domaine? Je ne sais pas. Là, c'est un peu. Oui, alors c'est. Ouais, je ne sais pas quoi te dire là. Hein. Je ne sais pas quoi te dire. Disons que la commission, là, elle va être très volontariste dans ce domaine. Maintenant, de là à dire si ça va. Ça va apporter ses fruits, je ne sais pas. Là, le Parlement a voté l'état d'urgence climatique. Hein, donc, c'est bien joli. Maintenant, il faudra que ça se traduise dans les faits. Hein. Mais c'est le Parlement. Mais sachant que Frans Timmermans, quand même, qui est premier vice-président de la Commission, hein, il a dans son portefeuille l'écologie, en fait. Hein. Alors, pourquoi 64 comme être leader? Eh ben, c'est parce que on a décidé qu'après cette date, ce n'était plus le baby-boom. Baby boom qui a commencé en 43-44 en Europe de l'Ouest, hein, c'est-à-dire avant la fin de la guerre, et qui s'est poursuivi jusqu'en 64. Et après, eh ben, on estime que c'est plus le baby boom, que la natalité est retrouvée un seuil plus raisonnable. Et après, eh bien, c'est une génération à qui on a donné un autre nom, en fait. Après, ça, c'est schématique, évidemment. C'est comme quand on parle des millénials, des générations X, Y, Z. Tout ça, après, c'est sujet à discussion. Et quand on se dit c'est telle année, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Et évidemment, on fait toujours des exceptions. Et chaque génération, aucune génération plutôt, n'est absolument enfin, n'est unifiée. Zut, je ne sais plus. Je ne trouve plus mes mots. Aucune génération, elles ont toutes leurs nuances. Voilà, je fais des périphrases maintenant. Elles ont toutes leurs nuances. Puisqu'on critique les boomers, mais c'est aussi des boomers qui ont inventé l'écologie, par exemple, enfin, l'écologie politique. Il fallait bien qu'il y en ait qui s'en charge à l'époque, hein. Et qui a dit oui, ils sont tous blancs? Bah oui, ils sont tous blancs. Bon, avec des petites variantes de blanc, hein, quand même. Mais bah oui, bah, l'Europe est blanche, surprise. Hein. Surtout à l'est, hein, et ça fait quand même beaucoup de pays, effectivement. Bah oui, ça c'est peut-être un problème. Je sais pas. Il faudrait peut-être faire quelques progrès là-dessus, sans doute. Mais c'est toujours délicat. Mais en tout cas, elle est presque paritaire. Et ça déjà, c'est pas mal quand même. Allons enfants, la liste gérontophobe. Ah oui, il y avait la liste, effectivement. Et dans son discours, alors, de quoi elle parle? Alors, voilà, il est assez long, son discours. J'ai noté quelques idées, quand même, vous voyez. Hop, 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 hop. Et elle, ah voilà, vous avez... Pardon, excuse-moi. Alors, voilà, qu'est-ce que je dis? Alors, elle commence... D'abord, elle se félicite de la parité, hein, mais après, elle a quand même... parler de l'audace de la construction européenne. Hein. Elle cite Václav Havel quand même. Attention, quoi, c'est énorme. Sachant que on est dans les 30 ans de la chute du mur, la réunification, enfin la chute aussi du rideau de fer, hein, la fin de l'URSS, et bien sûr après l'adhésion qui a conduit tout ça, l'adhésion quand même des anciens pays soviétiques, enfin communistes, à l'Union européenne. Elle n'oublie pas de citer, de présenter quasiment. Je pense tous les commissaires, j'ai pas vu tous leurs noms, mais enfin, elle en cite un paquet en tout cas, pour dire ces trucs qui va s'en charger, ces machines qui aura ça en main, rassurez-vous, je lui fais confiance, c'est quelqu'un de très compétent. Elle insiste sur elle affirme le rôle de l'Union européenne dans le monde, hein, c'est-à-dire aussi bien sur les conflits et les enjeux planétaires que sur les enjeux de notre voisinage, hein, la Syrie, la Turquie, les Balkans, pas mal de rappels sur la transition écologique, hein, mais qui doit se faire dans l'inclusion, hein, et dans la justice sociale, bien sûr. L'Europe de la recherche, bien sûr, aussi, hein, l'intelligence artificielle, la blockchain, le data, la cybersécurité. Il faut moderniser le budget européen, alors ça, j'ai pas tout compris. Peut-être qu'il y a plus de sous-sous aussi, hein, pour le budget européen, qui est quand même ridicule, hein, par rapport à ce que versent les pays. Donc tout ça, il faut aussi parachever l'union économique et monétaire. Petit passage aussi sur l'enjeu et la tragédie des migrants, qui étouffent dans des camions. Vous savez, il y en a découvert une trentaine de migrants dans un camion au Royaume-Uni. Une femme a vu le temps d'envoyer un SMS à sa mère au Vietnam pour lui dire qu'elle étouffait. Je ne sais pas si vous imaginez. En train de mourir, en train d'étouffer dans un camion, vous envoyez un SMS à votre mère qui est à 9000 km de là pour dire que vous êtes en train de mourir. Enfin, voilà. C'est assez. Enfin, ça un peu la chair de poule, quoi. Alors après, je sais pas. Enfin, après, elle parle aussi des enjeux de la santé. Et alors, je vous cite, hein, l'Europe se placera en tête du combat contre le cancer. Et elle rappelle que sa petite sœur est morte d'un cancer à 11 ans. Je n'ai pas fait le calcul de l'année, mais donc ça fait quelques années déjà. Donc c'est un sujet qui la touche personnellement, mais qui également est un sujet qui touche personnellement pas mal d'Européens quand même, puisque c'est deux hommes sur trois et une femme sur trois qui a eu ou aura un cancer au cours de sa vie. Et elle finit aussi sur l'agriculture. Et elle cite un terme qu'on a beaucoup cité pendant les auditions des commissaires, alors à la fois l'environnement, l'agriculture, etc. Et c'est de la ferme à l'assiette, from farm to fork, qui a été traduit de manière assez différente selon les interprètes qu'on a eu pendant les auditions. Alors ça pouvait être du champ à l'assiette, du champ à la fourchette, de la ferme à la fourchette. Enfin bon, donc là on a eu la ferme à l'assiette. Bon, from farm to fork en anglais, il y a le côté FFF qui sort, mais bon. Et effectivement, le Guardian Mais le Garnade a du retard, mon cher Red Jazz, puisque le vote a eu lieu il y a plusieurs heures maintenant hein, sur l'état d'urgence climatique et environnemental. Je m'étais mis de côté un tweet de Karim Adeli qui réagit là-dessus. Ah bah non, merde. Ah non, j'ai retweeté, pardon. Attendez, j'ai retrouvé. J'ai pas mis dans mes signets, attendez. Je vous retrouve ça. Je vous retrouve ça. Voilà. Le Parlement proclame l'état d'urgence écologique et climatique. Une première victoire de la ferme à la fillette. Merci, comme tel, comme être leader. Une première victoire, maintenant les travaux pratiques d'ici 2030, blablabla. Bla, bla, bla. Oui, parce que bon, c'est bien beau déclarer l'état d'urgence, mais après, il faut que ce soit suivi des faits. Hein, et c'est là que ça va pêcher, parce que bon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème, mais c'est toujours dans les dans la mise en application que ça pêche, et que c'est là que les comment ça s'appelle, que les désaccords surgissent. Même si bon, normalement tout le monde est d'accord sur l'objectif qui est l'accord de Paris, hein, de traiter carbone en 2050. Maintenant, comment on y va? Il y a des députés qui ont réussi à mettre le nucléaire comme énergie propre dans le texte, mais d'autres ont quand même réussi aussi à mettre qu'il fallait aussi qu'on sache gérer les déchets. Comme ça, je pense que ça a dû être une espèce d'entre-deux pour que ce soit voté un peu par tout le monde. Et comme ça n'engage pas à grand chose et ça permet à tout le monde de sauver la face et dire du bien du nucléaire. Et alors la fin du discours, donc cela dépend de ce que nous ferons ensemble. Si nous faisons bien notre travail, l'Europe de 2050 sera le premier continent neutre en carbone, une puissance de premier plan dans le numérique, l'économie qui risque le mieux à assurer l'équilibre entre le marché et le social. Elle sera chef de file dans la résolution des grands enjeux mondiaux. Donc ça, c'est l'ambition pour une Europe 2050, quoi. Une Europe puissance, une Europe géopolitique, comme elle avait dit au début de son mandat, hein, avant l'été, en fait. Alors, et je réponds à ta question, Mémel, avant de finir le discours de Ursula von der Leyen. Pourquoi besoin des Verts? On trouve une verte présente d'une commission. Parce que les commissions, c'est à l'équilibre des groupes et donc les Verts ont leur part. Il n'y a que les groupes d'extrême droite qui ont été exclus. Je crois que même la gauche unie européenne a des présidences de commission, en tout cas elle a des vice-présidences de commission. Ça fait une répartition en fait au prorata de la puissance des groupes en fait. Par contre l'extrême droite en a été exclue, en tout cas des présidences. Je pense que l'extrême droite a des vice-présidences, je ne suis même pas sûr, à vérifier, mais tout ça se fait au prorata. Donc plus ton groupe est puissant et plus évidemment tu as de membres dans chacune des commissions et plus tu as de présence de commission. Et plus, bien sûr, tu as pu prendre les commissions qui comptent, celles qui ont du poids, celles dont la parole est écoutée, les finances, tout comme ça. Voilà. Alors, est-ce que Ursula von der Leyen a déclaré l'autre jour que l'Union ne sera jamais une alliance militaire? Alors, l'Union n'a pas vocation à être une alliance militaire. Hein. Par contre, il semblerait quand même que l'Union soit un peu plus d'accord aujourd'hui pour avoir une défense commune et en tout cas ne plus compter que sur... ne plus compter uniquement sur l'OTAN pour se défendre, puisque si les États-Unis continuent dans une veine très America First à la Trump, l'OTAN risque d'en subir les conséquences, en fait. Alors, ensuite, le chemin est ardu, la tâche n'est pas facile, mais ensemble, nous pouvons le faire. Hein, ensemble, tout est possible. Inspirons-nous de cet esprit optimiste et volontaire d'il y a 30 ans qui a fait tomber le rideau de fer. Pour en revenir à Václav Havel, hein, qu'elle avait cité au début, il y a des millions d'Européens qui s'engagent parce que c'est la bonne chose à faire. Il y a ceux qui s'investissent pour renforcer leur communauté. Il y a ceux qui donnent de leur temps pour prendre soin des personnes âgées ou nettoyer un parc. Les petites choses. Hein. Il y a ceux qui sortent dans la rue, mais aussi changent leur style de vie pour protéger le climat. Voilà, elle fait référence aux manifestations pour le climat. Hein. Des gens qui veulent faire la différence. You too, you can make a difference. Nous aussi, Parlement, Conseil et Commission, nous devons faire différence. Donc là, elle fait le lien entre les gens qui s'investissent, hein, c'est-à-dire les citoyens, lambda, les citoyens, les gens normaux comme vous et moi, mais aussi donc les trois instances hein, du pouvoir européen, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, donc les États en fait, et la Commission européenne, l'exécutif, qui doivent aussi leur faire la différence. Hein, en français, bon, je pense que l'anglais devait être make a difference. Je ne sais pas si elle a fait son discours en anglais ou en français, mais je vous lis. Une transcription traduite en français. Après, c'est un petit peu de flou. Est-ce que c'est tout à fait ça qu'elle a dit? Mais c'est l'esprit. C'est dans cet esprit que j'ai construit mon équipe et c'est dans cet esprit que je suis ici aujourd'hui devant vous pour demander votre confiance. Donc, c'est un discours avant le vote. Hein. Mettons-nous au travail afin de pouvoir dire dans 30 ans, et ça, je pense qu'elle l'a dit dans les trois langues, hein, vive l'Europe, es lebe Europa, long live Europe. Voilà, elle a conclu comme ça. Elle avait déjà dit ça avant l'été. Hein. Bon, elle est trilingue, voire quadrilingue. Ursula von der Leyen, elle parle allemand, bien sûr. Hein. Elle parle anglais parce qu'elle n'avait pas trop le choix. Elle parle français parce qu'elle a fait des études en France. Bon, elle doit bien parler un peu néerlandais ou, je ne sais pas, italien. Hein. Pourquoi pas? Ces gens-là, ils apprennent les langues comme ça, quoi. Hein. Je vous déteste. Mais bon, en tout cas, elle parle au moins trois langues. Et ce n'est pas plus mal pour une présidente de commission d'un ensemble politique quand même avec 27 langues officielles et au moins trois langues de circulation avec l'allemand. Enfin bon, c'est pas mal. Elle a un mot gentil pour tous les activistes qui réussissent à bien passer dans les médias. Ça sent la force de caractère. Je suis surpris. Alors, je suis surpris. T'es sûr que c'est juste pour ça? C'est très politique comme discours, ça, je suis d'accord. Mais est-ce que tu penses que c'est juste pour ça, en fait? Alors, les petits gestes sertariens, s'il n'y a pas de décision politique et surtout de conséquences au niveau national. Oui, Dark Doji, je suis d'accord. Alors après, tu vois, elle fait l'éloge des petits gestes pour dire que ça ne compte que si les instances, enfin c'est comme ça que je lis son discours, hein, que si les instances européennes, dont la commission qu'elle préside quand même, et le Parlement devant lequel elle s'exprimait, font aussi leur part du boulot, qui est effectivement la part la moins faible, hein, la plus conséquente, et celle qui permet de structurer après le jeu politique et le débat, quoi. Effectivement, sinon, ça n'a que peu d'intérêt. Donc, nous avons, au niveau européen, une commission européenne. Ça y est, c'est fait. C'était un peu long, un peu difficile, hein, notamment le commissaire roumain, hein, qui a été un peu dur à trouver. Il y en a deux qui ont été têche, tout ça. Ou l'hongrois. Tiens, je me trompe peut-être. Enfin, en tout cas, les candidats hongrois et roumains ont eu du mal. Quand même, Sylvie Goulard, qui s'est fait jeter aussi, avec Thierry Breton. Qui s'en sort alors qu'il avait plusieurs soupçons de conflit d'intérêts. On verra ce que ça donne plus tard. Donc, ce n'est pas évident, sachant que la Roumanie vient d'avoir l'élection présidentielle. Alors bon, tout ça est compliqué. Ils étaient en pleine crise interne. Merci. Donc, Levana, c'était bien le candidat hongrois, hein, qui s'est fait jeter deux fois.
Il y a aussi la Pologne où il a été obligé de repasser une seconde fois.
Ah oui, c'est ça, ouais, bah ça c'était le commissaire à l'agriculture qui a dit n'importe quoi à la première audition. Il a dit oh là là, pff. Après il est venu, il a dit ce qu'il fallait.
Ils ont dit bon, d'accord, ça va. C'était glorieux quand même. Hein.
Non, c'était pas glorieux, ouais. C'était pas glorieux. Mais les députés pouvaient pas jeter tout le monde non plus. Enfin, politiquement, tu peux pas griller quand c'est une commission, c'est délicat quand même. C'est délicat. Et bon, je sais pas comment. Il a été coach entre deux, c'est ça, Dark Doji, il a bien appris ses fiches et comme ça il a pu dire ce qu'il fallait. Et je pense que les commissions ont dû dire, enfin les membres, les députés et membres de la commission ont dû dire, bon ok, allez, ça va, il va faire le taf, il est compétent sur ça au moins. Parce que bon, il ne faut pas non plus être expert dans le domaine forcément, hein, parce que après, tu as des enjeux politiques qui dépassent le simple fait de savoir qu'est-ce qui pousse là ou quoi. Il faut surtout bien savoir mener sa barque en fait. Ah, Levana, alors est-ce que c'est un vote contre Orban? Alors, pas seulement, mais tu as raison, c'est-à-dire qu'en fait, les candidatures roumaines et hongroises ont été rejetées aussi parce que. À chaque fois, c'était des candidats issus d'un pays qui était en marge au niveau du parti. C'est-à-dire, les Roumains, c'était un socialiste, mais en marge du PSE, le Parti Socialiste Européen, et le Hongrois était un candidat donc, pour le PPE, mais les Hongrois du PPE sont en marge du PPE, du Parti Populaire Européen. Donc, en fait, c'était un vote politiquement pas trop cher. C'est pour ça qu'ils se sont permis de faire un vote qui politiquement était plus compliqué, mais qui a mis tout le monde d'accord contre lui, Sylvie Goulard, qui a permis à la gauche de taper Macron, au PPE de se venger du PPE exclu, aux socialistes de se venger à la fois de Macron et de Renaissance qui avait aussi Tej leur candidat, enfin toute une espèce de petite vengeance mesquine et qui est tombée bien parce qu'en plus Goulard avait quand même passé la partie juridique. Un peu bizarrement, avec ses soupçons de conflit d'intérêts. Et donc, ça tombait bien, quoi. Donc, c'était en plus un vote anticorruption pas trop cher et qui a permis à tout le monde de se faire bien voir, quoi. Voilà. Mais bah, c'est pas glorieux d'ailleurs quand même pour ni pour Renaissance ni pour Macron d'avoir à ce point-là insisté sur Sylvie Goulard. Déjà d'avoir pensé à elle, qui est quelqu'un de très compétent. Ça, j'en doute pas une seconde. Qui à mon avis sur le poste aurait été très très bien, mais avec de telles casseroles au cul. Enfin, moi je trouve ça absolument démentiel en fait quand même. Honnêtement, je pensais qu'elle passerait parce que je me disais s'ils font ce pari, c'est qu'ils sont sûrs d'eux quoi. Je... Merde, et ben même pas. Donc moi je pensais qu'elle se sentirait mieux que ça, et... mais qu'elle dise non non, mais attendez, je vais pas démissionner si je suis mis en examen et tout. Enfin, pff, c'était chaud quand même. C'était chaud. Ouais, Macron a dit, je comprends pas, voilà, Dark Dogir. Est-ce qu'il comprend vraiment pas, ou est-ce que c'est ce qu'il a voulu dire à la presse? Je sais pas. Après, peut-être, c'est vrai qu'il comprend vraiment pas, hein, ce qui serait, enfin, ce qui m'inquiéterait un peu quand même. Mais bon, c'est assez fou quand même. Et effectivement, bon, on peut avoir une petite pensée pour Sylvie Goulard à qui dire, t'inquiète Sylvie, c'est réglé, c'est huilé, comme une horloge, tu vas voir, c'est bon. Et qui s'est quand même tapé deux auditions. Non, attends, oui, si, deux auditions, donc bon, pas simple, hein, et puis c'est un peu humiliant, quoi. Le rappel de toutes ces affaires, bon, si avec tout ça, après, elle se retrouve blanchie au terme de la procédure en France, elle pourra avoir les boules, quoi. Je sais pas trop, c'est assez bizarre. Est-ce que c'est une question de culture politique, Lavagnat? Je sais pas, ouais, quand même. Effectivement, peut-être qu'ils n'avaient pas prévu que le PPE se venge comme ça de l'exclusion du candidat hongrois, ou jusque comme ça, le PPE a montré que Renaissance ne faisait pas tout non plus, qu'il s'était vu un peu trop gros. Il y a peut-être de ça aussi, hein, genre attention, faut quand même compter avec nous, hein, on sait encore bâtir des majorités, même si c'est en négatif. Sans doute, hein, ouais, Sylvie Goulard, mais bon, Sylvie Goulard, elle est aussi victime de l'inconséquence du modem, d'avoir laissé planer autant le doute sur certains salariés, quoi, hein, et le fait qu'elle ait démissionné et qu'il y ait quand même une procédure judiciaire en cours en France, quand même, hein, et qu'elle ait quand même un truc, elle a dû rembourser au Parlement européen plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, j'ai plus le chiffre en tête, c'est 25 000, je sais plus, pour qu'ils abandonnent la procédure. Qui soupçonnait un emploi fictif avec un assistant au Parlement européen, quoi. Donc quand même c'est pas tout ça est quand même moi m'étonne un peu, quoi, des gens qui se pensent que ouais, ça va passer. Peut-être que c'est des vieilles habitudes, on se dit ouais c'est bon, ça passera, et qu'on change un peu en tout cas en France de culture politique, et que on tolère moins ces histoires de peut-être pas de corruption mais de magouilles, quoi, trucs qui sont pas forcément illégales mais en tout cas immorales. Et que maintenant le curseur de la moralité il est placé plus haut. Alors plus bas, je sais pas, enfin ça dépend comment vous placez, et que maintenant eh ben on est beaucoup plus sévère avec ce genre de cas en fait.
Alors pour info, elle a remboursé 45 000 euros.
Putain, 45 000, voilà, c'est ça. J'avais 25 000, j'étais à la moitié, quoi. 45 000 euros. Merci Thibaut pour ce fact check en direct. Ça fait toujours plaisir. Et ouais, c'est quand même. C'est quand même bizarre de pas. Mais même, hein, il y a des Scandinaves chez Renaissance, ils auraient pu dire hop hop hop, ça passera jamais. Attendez, il y a plein de gens beaucoup plus intransigeants que vous, les Français, Parlement européen. On sait bien que vous, les Latins, vous en foutez. Mais bon. Effectivement, merci, je suis surpris de rappeler que le chef du PPE, qui devait être le Spitzenkandidat, n'a pas apprécié de pas devenir le président de la Commission, puisque. Macron a envoyé valser, et ça c'est vraiment à cause de lui, hein, le système des Spitzenkandidaten, mais avec l'appui de tous les libéraux européens, hein, qui étaient bien contents de ne pas avoir à faire ça en fait. Voilà. Voilà, des Vikings. Les parlementaires, ils prennent leur poste, on leur dit bon, t'as prévu qui, on peut fixer ta femme ou ton frère. Alors c'est pas possible, hein, les emplois familiaux c'est interdit. Donc ça c'est plus possible, y compris en France désormais. Alors les cousins, je crois que c'est autorisé. Tu peux faire des familles croisées, hein. C'est-à-dire que tu peux faire embaucher ta femme ou ton fils ou ta fille ou ton mari, hein, soyons pas par un copain du même groupe ou même un copain d'un autre groupe, hein, et là il n'y a rien à dire. Et puis si tu mais par contre t'as pas le droit de l'embaucher toi. Si t'es marié à ton cousin, comment ça se passe? Eh ben c'est toujours interdit parce que tu as un lien familial. Par contre quelqu'un d'autre peut l'embaucher. Et par contre, l'emploi fictif, ça s'intéresse pas au fait si c'était la famille ou pas. C'est est-ce que la personne que tu payes pour travailler au sein du Parlement européen, par exemple, et pour ton mandat, a travaillé sur les dossiers parlementaires, ou est-ce qu'elle a fait des choses à Paris? Et en l'occurrence, dans le cas du du Rassemblement national, ses emplois fictifs, enfin les soupçons d'emploi fictif Parlement européen, on a des forts soupçons parce qu'en plus il y a eu des SMS qui sont sortis où les gens visiblement ne connaissaient pas le Parlement européen, étaient quand même salariés du Parlement européen avec des sous européens et en fait travaillaient au siège du parti. Alors il y a, pour parler franchement, il y a un flou avec les salariés politiques et surtout les salariés parlementaires où quand même ils font un travail politique pour leur patron. Effectivement, tu peux parfois être amené à travailler pour un sujet qui n'est pas directement en rapport avec le travail parlementaire. Mais il ne faut pas que ce soit la majorité. Enfin, il ne faut pas que ce soit sur tes 40 heures de travail hebdomadaire, tu passes 35 heures à bosser sur la circonscription et les futures élections municipales ou pour le taf du parti, et 5 heures à juste répondre aux mails de ton député, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Ça finit par se voir. Et bon, bah, l'Union européenne est assez intrusante là-dessus. D'où les 45 000 euros remboursés par Sylvie Goulard et l'OLAF, qui est le nom de l'organisme qui s'occupe de ça, a dit « Ok, c'est bon, on laisse tomber. Vous avez remboursé, ça va. » Est-ce que c'est parce qu'on a plus facilement accès à l'information maintenant, Crocs ? Je sais pas. Je sais pas. C'est aussi des questions de culture politique. Hein. Il y a des pays qui sont intrusants là-dessus depuis bien plus longtemps que la France. C'est pas qu'une question d'accès à l'information. C'est aussi que on tolère plus aujourd'hui des choses qui n'auraient pas forcément fait lever un sourcil à l'époque. La justice est plus intransigeante. Et elle a aussi des outils maintenant qu'elle légalement n'avait pas forcément il y a quelques temps. En tout cas, pour la France. Hein. Ça, c'est assez net, en fait. Écoutez, hein, il est 16h10. Qu'est-ce que t'en penses, Thibaut ?
On est pas mal là.
On est pas mal, hein.
On a fait un bon petit tour.
Je crois qu'on va arrêter, quoi. Hein. Je cherchais un petit truc là. Je sais pas. Ouais. Voilà, on va arrêter, hein. Alors, Ecladus, justement, des clarifications. Bah, vas-y, écoute, on va finir là-dessus. Je vais clarifier mes propos. Je t'écoute, Sylvain. Ça te passe pour plein de choses, cette musique. Tu étais du UPR, Calawan. Pas toutes les semaines, quand même. Non. Ce serait trop facile, en plus, parce que je sais que dès qu'on met UPR dans une vidéo de replay, on a plus de vues, quoi. Donc, on peut pas... tu vois, c'est trop facile, en fait. Par contre, on se prend des pouces. J'ai dit Goulard est victime de la conséquence du modem, mais t'as pas compris. Ah, ok, alors attends, qu'est-ce que... Bah, Goulard était bien au modem, non ? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, visiblement, il y a un soupçon collectif sur plusieurs, sur le parti et le fait que le parti ait employé des salariés du Parlement européen, enfin des assistants parlementaires pour le travail du modem. Et ça, c'est quand même une responsabilité, un choix du parti de dire aux députés on va embaucher un tel sur ton quota de députés, d'assistants parlementaires, et par contre il viendra bosser au siège du parti et pas pour ton travail de parlementaire. C'est pour ça que je disais que Goulard était victime de la conséquence du modem, qui n'avait pas pensé que ce genre de magouille pourrait rester, enfin si magouille il y a, hein, pourrait rester à la fois inconnu et impuni. Une fois que ce serait mis sous la lumière. Voilà, c'est tout. Tu n'es pas d'accord ? Nous en discuterons autour d'un café, mon cher Sylvain. Même, on peut faire un débat, écoute, la semaine prochaine, autour de nous pour en parler, Sylvain. Bonjour, Sylvain. Voilà, bah, écoute, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, hein, tu sais. Les accords peuvent être fertiles. Sinon, ce serait dommage si on était tout le temps d'accord. Qu'est-ce que tu en penses ? Bien, je vais vous laisser... en compagnie de Usul à 20h, comme c'est indiqué, je peux pas, comme c'est indiqué au-dessus de moi. Voilà, là, voilà. Tu peux placer derrière, non ? Et donc, Usul à 20h pour parler de la gauche. Est-ce qu'il parle de la gauche ? Parce que j'ai regardé les passages et c'est pas toujours la gauche, hein. Il parle beaucoup de la droite aussi, quand même. Pour en dire du mal, c'est vrai.
Il parle de la droite de la gauche, quoi.
La droite de la gauche, genre les socialistes. Les radicaux, voire les écolos. Il va parler de Branco ce soir. Oh, du coup, je vais peut-être regarder l'émission. Est-ce qu'il prépare sa chronique Mediapart? Ah, ok, je sais pas. Écoutez, j'ai jamais regardé en entier, parce que c'est pas des horaires simples non plus. C'est l'heure où je couche mon fils, donc c'est pas toujours simple. J'ai regardé des passages quand même, et bon, c'est rigolo. Et donc, s'il parle banco, je vais peut-être faire un effort. Ah, il lit le diplo aussi. Ah, c'est pas con ça comme truc de l'émission. Tu prépares rien et tu lis le diplo. C'est pas con ça. Ah, je vais faire ça quoi. Je vais lire des bouquins en direct. Je ne ferai pas le fichier lecture avant. Je dirai le bouquin en direct. C'est pas con, tiens. Je vais faire ça. Bon, alors, pas merci pour la jauge. Hein. Je vous remercie pas. Elle est restée à zéro. Donc, pas de bouquin. Voilà, d'accord. C'est compris. C'est compris. Mais oui, Sylvain, je taquine. Oh là là. Pff, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire, quoi. Franchement, on
C'était
peut
mieux avant.
plus rien dire, quoi. Vraiment, on peut rien dire. Ah! Ah, j'ai plus les bruits de Zerg. Ah bah merde. C'est dommage. Tant pis, on peut plus rien dire. Bon, eh ben, tant pis. Il ne me reste plus qu'à vous dire. Voilà, c'est un peu long, hein. Il faudrait qu'on recoupe le MP3. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et donc à vous laisser aux mains, oh Todd, mon Dieu, pardon, aux mains de Usul à 20h et je vous dis à jeudi prochain. Ouais, attends, c'est bon jeudi prochain parce que je sais qu'il y a un jeudi où je pourrais pas. Je vérifie juste que c'est pas jeudi prochain. Non, c'est bon. Donc à jeudi prochain et ce sera on fera un plein dans les grèves, mais pour venir ici, j'en ai rien à faire parce que je viens avec mon vélo et que c'est pas très loin de chez moi. C'est plus pour Thibaut, par contre. Ah non, je fais pas grève, non, mais ce sera là pour vous. On parlera des grèves, hein, sans doute, voir si elles seraient suivies, si c'est le Dawa, tout ça, éventuellement des réactions aussi politiques sur cette grève. Mais Twitch n'est pas en grève, hein. Moi je ne serai pas en grève et je serai là pour vous servir. Bien sûr. Donc, à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée, bien sûr, avec Usul. Au revoir, Thibaut.
Au
Ah,
revoir.
au revoir. Au revoir. Des bisous à tout le monde. Au revoir, André, pardon. Hein. Toujours un plaisir. Oui, j'aime bien faire tes émissions. Au revoir, salut.